Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Salut Ludovic!
Bonjour!
Bonjour, bon matin! C'est peu importe à quelle heure il faut regarder ça. Là. Il est peut-être le soir, il est peut-être comme notre invité, il est peut-être 2h30 du matin si tu viens de te lever. Ça a pas... Moi, tu serais-tu capable de te lever à 3h du matin à tous les jours?
À tous les jours, non. Mettons, je le fais une fois.
Oui, parce qu'il faut que tu partes.
Faut que je parte en vacances. Ouais. Faut que je parte en vacances.
Ou sur un tournage qui est ouais. tôt, tu sais, ça
genre
se fait.
À chasse.
Ah, ouais.
Je le fais. Mais genre, je m'endors à une heure. Là,
non, ouais.
Quand je sais qu'il faut que je me lève tôt, je dors pas.
Ouais, moi avec.
Ça me stresse comme faut que je dorme.
Je suis incapable. On est pareil, la team aussi. Je suis incapable de gérer ça. Mais notre invité aujourd'hui, on était, je pense, on était très. C'est très intéressant. On a été, tu sais, comme François Lambert, là, on va le nommer.
Qui François était Lambert. Là. On parle de CV, là. Tabarouette. Lui, il t'en a tout un, là.
Ah, ouais.
Mais il n'y a pas eu tant de jobs. Ses expériences sont hyper intéressantes. Ah. C'est un gars qui voulait se créer sa ouais. propre job, être son propre boss, puis il nailed it.
Man, c'est d'une résilience incroyable. Moi, pour vrai, j'aurais jamais été capable de gérer le stress que cette carrière-là occurre. Là, l'entrepreneuriat, tu sais, on est des entrepreneurs dans ce qu'on fait, là, mais...
Ouais.
Hey,
mais pas, tu sais...
Perdre 50 000 en deux semaines, là,
non, c'est ça.
Vous allez triper sur...
Mais,
l'entrepreneur François Lambert que vous avez connu peut-être à Big Brother ou vous connaissez par il y a eu des passes un petit peu plus que les gens tu sais étaient un peu choqués des passages de François Lambert sur les réseaux sociaux.
Ouais,
peut-être que vous l'avez connu là aussi.
Un super presque parfait.
Un super presque parfait, c'est vrai. Pour vrai, c'est un gars super attachant, il est super gentil et pour vrai quand il a dit je veux pas être prof, les élèves en entrepreneuriat manquent de quoi.
Ah ouais, mais hein. Ah ouais.
Je pense que j'irai faire un cours juste pour l'entendre parler de business encore. On a eu beaucoup de fun. Lido, notre page YouTube.
Oui, notre page YouTube, it's growing. Il y a plein de monde qui s'abonne.
Ouais,
les vidéos, ils prennent de l'ampleur. Ouais. C'est vraiment le fun. Fait que continuez à vous abonner.
À regarder ça, à partager, à vous abonner
like,
à la chaîne.
Like, subscribe and share.
Oui, exactement, comme les vrais YouTubers font. aussi, Patreon encore qui roule. Merci aux abonnés. Merci aux gens qui s'abonnent, ça l'aide le podcast, donc on est très contents. C'est disponible partout. Il y a du monde qui me demande est-ce que c'est disponible sur Spotify. C'est disponible partout.
Pense à une plateforme qui offre des podcasts, il est là.
Ouais, pour vrai, je pense qu'il n'y a pas de plateforme, qu'on n'est pas dessus. On est même sur Cube Radio.
On est sur Cube Radio aussi. Ouais, c'est ça. Fait que non, c'est facile à trouver. Si tu ne trouves pas, c'est que ça ne tente pas. C'est correct.
T'es pas obligé, mais c'est sûr qu'on va être off.
Mais Patreon, c'est important. Ouais. Vous voyez, là, il y a des plexiglas, des micros. Ça a tous des coûts. Là,
ouais, il y a une équipe de 100 personnes en arrière du rideau aussi. Là, fait que,
100 personnes, 3-4 recherchistes.
Ah ouais, 3-4 recherchistes. Smoke Machine, les Stuntmen.
Mm-hmm.
Il y a un stuntman.
Mm-hmm. On a un craft, puis tout. Ouais. Après, on a une loge. Tu sais, fait que
on a des amandes,
les biscuits, les amandes, c'est ça.
C'est Dom Pérignon, nous. On commence pas la journée sans avoir vu un 1922.
Ouais.
Ça a coûté cher. Bon, mais regarde, si vous voulez qu'on se paye un 1922, abonnez-vous au Patreon. La chaîne YouTube. Bon épisode avec François Lambert. T'es aussi Ludovic.ca pour des spectacles qui s'en viennent.
Ouais, Ludovic.ca, toi, ouais. Christophe.
J'ai pas de site encore. Christophe Duferré sur Facebook.
Okay.
Pas mal ça. La page de Midi-8, mon agence. On
son
a fait
agence.
Des spectacles.
Mais mon agence, Ludovic.ca.
Ouais, Ludovic.ca. Une couple de festivals cet été.
Pas grand chose. Assez tranquille cet été.
Tranquille.
Mais soyez à l'affût. Sur Christophe Dupéré, sur Facebook, vous allez voir toutes mes dates.
Au pire, si c'est tranquille, écrivez-moi en privé, je vais vous donner son adresse pour que vous ayez voir sa maison.
Ouais. Rien qu'à suivre ma blonde, vous allez voir ma maison.
Bonne écoute avec François Lambert. Hey, Hey Lido, comment ça va?
Ça va bien toi?
Ouais. Je suis très excité de recevoir notre invité cette semaine.
Oh my God.
Comme je disais au téléphone, c'est comme notre premier invité qu'on a eu, tu sais, comme pas de la vie, là, parce qu'on est rendu à une douzaine d'épisodes, mais tu sais, c'est notre premier invité qui est pas, tu sais, du milieu humoristique, du milieu de la chanson, mais tu sais, un entrepreneur né. Puis c'est dans ton ADN depuis longtemps, là, on s'en est parlé hier.
Oui, oui. Moi, je voulais rien faire d'autre qu'être entrepreneur. Il y en a qui deviennent chanteurs, pompiers, joueurs de hockey. Moi, c'est business. Entrepreneur.
Mais vous l'avez reconnu, François Lambert. Salut, François.
Salut, salut. Merci d'être invité, les gars.
Mais comme ça, entrepreneur, pourquoi? Pour la liberté, pour faire ton horaire, pour l'indépendance? Ouais, c'est une bonne
question. Ben, quand j'étais jeune, je voyais les entrepreneurs. Ben on appelait pas ça des entrepreneurs, hein, parce que c'est entrepreneur, avant c'était en construction. Pis c'était mal vu, le mot entrepreneur. Mais je voulais être mon boss. On appelait ça, faut être son boss.
Oh, ouais.
Et je regardais mon grand-père qui était son boss. Il avait l'air d'avoir de la liberté. Mon père aussi. Il n'y avait pas d'horaire de bureau. Il se promenait. Après ça, j'ai rencontré le vétérinaire qui venait parce qu'on est déménagé sur une ferme. Puis tous ces gens-là que je voyais, je me disais, ils ont bien une belle vie, eux autres.
Oh, ouais.
Ils sourient. Puis ils sont de bonne humeur, puis ils vont voir les clients. Je dis, c'est ça que je veux faire.
Ouais.
Fait qu'à 5 ans, moi, c'était. Je dis 5 ans parce que je me souviens pas avant.
Ouais, c'est ça.
T'sais, mais c'était que ça que je voulais faire.
C'est la liberté un peu de.
Ouais, vraiment.
C'était carrément la liberté, mais tu sais, qu'en vieillissant, puis à un moment donné, bon, ça prend du temps avant de devenir entrepreneur, trouver ta voie. Mm. Et quand tu te lances en affaires, tu fais comme, oh, OK, j'en ai pas de liberté.
Ouais, c'est ça.
Mais tu en as une. Tu as la liberté de dire, je vais choisir par où que je m'en vais.
Oui, exact.
Mais t'en as pas de liberté de temps. S'il y a quelque chose que tu perds en te lançant en affaires, c'est le temps.
C'est le temps. Mais c'est prenant au bout, là.
Mais c'est ta passion.
C'est ça. Tu comptes pas les heures.
Tu comptes pas tes heures, tu sais. Je veux dire, tu fais de l'humour, tu fais du chant, mais si tu te pratiques puis tu tripes ce que tu fais, à un moment donné, tu regardes, tu dis, il est 3 heures du matin,
je vais jamais coucher.
Mais c'est un peu la même chose en entrepreneur. Moi, je cherche toujours des nouvelles idées, comment rejoindre les clients. Comment développer un nouveau produit, quel produit qui est hot. Donc, je passe ma journée.
Ça spin, là, non-stop.
Ça spin, non-stop, et depuis toujours. Tu sais, j'ai essayé. J'ai essayé parce que j'ai vendu mon entreprise, mon centre d'appel qu'on avait lancé en 2003. Mm-hmm. Je l'ai vendu en 2012. Et j'ai essayé de prendre du temps pour moi.
La retraite?
Le monde, moi, j'étais à la retraite.
C'est vrai, ça se peut, François Lambert à la retraite.
Ben, je l'ai essayé.
Ouais, c'est ça.
Puis, pour me rendre compte que c'était mes années les plus misérables.
Ah ouais, OK.
Je m'ennuyais.
T'as besoin de t'occuper, ouais.
Ben, je m'ennuyais, je me disais, OK, mais je fais quoi? OK, je vais aller m'entraîner. Bon, parfait, c'est pas mon but. Bon, ben, j'ai bien du temps, ben, je vais faire une compétition. Bon, j'ai fait les championnats du monde des PDG. Okay. Les PDG les plus en forme de la planète.
Ah ouais? C'est bien nice.
Il y a une compétition de toutes.
Ouais, il y a une compétition de toutes. Je vois ça. Mon associé dit, on l'a fait dessus. Parfait, on s'est entraîné comme des fous. Tu sais.
Ah ouais. Hein?
On était 25. Ils sélectionnaient que 25 parce que c'était pour. C'était télévisé. Donc, avec le parcours, il ne pouvait pas avoir plus que 25 personnes. Il fallait avoir un chiffre d'affaires d'au moins 10 millions. Et moi, je suis arrivé là, j'étais persuadé que j'étais pour gagner parce que j'étais un bon coureur, un bon nageur. Mais la première compétition, c'est une compétition de vélo. Et là, j'ai vu qu'il y avait Simon Lessing qui avait gagné le triathlon aux Olympiques à Londres.
OK, mais voyons donc.
Là, j'ai fait comme, OK, c'est quoi cette affaire-là? Là? C'était une compétition extrêmement tough. J'ai fini 7e.
Quand même.
Mais tu sais, ça revient à la même chose qu'être en affaires. T'sais. Je m'étais mis des objectifs sans connaître ma compétition. Je me disais, écoute, je suis bon là-dedans. C'est vrai que j'étais très bon coureur, très bon nageur, un assez bon cycliste. Mais quand tu ne te compares pas avec les autres, c'est facile de dire. Tu vas gagner. Mais non, après ça, la première journée, j'ai fait comme OK.
Ben oui.
J'avais fini premier Spartan Race, j'avais fini 11e en vélo. J'étais 4e overall après la première journée. J'ai fait la course, j'ai fait comme OK, il y a des machines ici.
Ça. Tu sais, s'il y a des champions, championnes du monde.
Ben oui, il y avait un gars qui avait essayé les Olympiques en natation. Il y avait lui et Simon. Il faut que je me batte contre ça. Mais on s'adapte, on revoit nos objectifs, mais...
C'est une belle expérience.
Je cherchais des nouveaux défis, parce que je me disais, ben écoute, tu sais, c'est fou, parce que quand je dis on est entrepreneur, il y a des entrepreneurs qui viennent entrepreneurs parce qu'ils veulent faire de l'argent. Mm-hmm. Et by the way, j'aime ça l'argent. J'aime ça comme tout le monde. Quand j'étais jeune, là, je voulais me lancer en affaires pour la liberté, mais la liberté d'être riche.
La liberté financière. Là.
Ben oui, tu sais.
Ben oui, c'est qui est normal.
Puis il y en a d'autres qui se lancent en affaires parce que ils veulent faire que de l'argent. Mais ça, t'en fais jamais assez. Puis ça, j'ai découvert ça quand j'ai travaillé au gouvernement pendant 5 ans avant de me lancer en affaires, avant de venir à Montréal. Il y a une fille avec qui je travaillais, j'aimerais tellement la revoir aujourd'hui, cette fille-là. Puis à un moment donné, je disais, hey, je viens d'avoir une promotion. J'étais parti comme de 24 000 par année. On est en 90.
OK.
Et j'ai un nouveau poste d'analyste financier, je gagne 42 000 par année. Okay. Moi, je suis millionnaire.
C'est le bout de la merde.
Non, 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 je suis millionnaire.
C'est fait, là.
C'est fait. Écoute, j'ai 24 ans, je gagne 42 000.
1% du 1%.
Là, j'en ai assez. Puis elle me dit, François, elle, elle étudie en psychologie, puis elle dit, François, elle dit, le type de personne que t'es, tu n'auras jamais assez d'argent parce que c'est pas l'argent qui drive dans le monde.
Ah ouais, c'est ça.
J'ai fait comme, ben non, j'en ai assez.
Ah ouais.
Ah ouais.
Puis à la fin, j'ai réfléchi, puis je pense toujours à cette phrase-là, encore aujourd'hui.
Ça t'a marqué, là.
Ben oui, parce que c'est vrai que c'est pas l'argent qui me définit.
Non, c'est ça.
Tout le long que je lançais des entreprises, ben, on arrachait financièrement.
Ouais, ouais, clairement. C'est difficile au début.
Puis, puisque je travaillais pas pour l'argent, c'est comme 4-5 ans plus tard, j'ai été m'acheter une montre à 8 000 $.
OK.
Vraiment, là, une niaiserie, puis j'ai fait comme, aïe, aïe, ça me dérange même pas. Et c'est là que je me suis rendu compte, OK, j'ai atteint un objectif que je voulais d'avoir la liberté financière, mais qui n'était pas mon but. Je me suis rendu compte que c'est pas ça.
Ultimement, c'était pas ça qui te drivait.
Des entreprises, puis bon, j'ai passé par l'étape de nouveau riche, là. Ça a duré peut-être 3-4 ans dans ma vie. Puis après ça, je me suis dit, c'est pas les bébelles qui me définissent, c'est pas l'argent. Mon but, c'est de bâtir. Je suis un bâtisseur et je vais rester bâtisseur toute ma vie.
C'est ça.
Mais il y a de quoi d'impressionnant, tu sais, mettons, si on se colle à ton CV, là, tu sais. Toi, admettons, tu viens de. Tu sais, t'as grandi à Laval, après, t'es parti à Notre-Dame-de-la-Pipe, là, maintenant, ton chalet que tu me disais est là-bas.
Oui, exactement.
Mais toi, tu viens vraiment, tu sais, malgré que. On va en parler plus tard, que tu sors, tu sais, toi, t'as vendu une compagnie de télémarketing, puis maintenant, t'es dans le commerce au détail.
Oui.
Toi, tu viens vraiment d'un milieu rural.
Oui.
Tu sais, c'est très. Toi, ton père avait une ferme.
Oui, mon père élevait des moutons. On avait. À peu près 300-400 moutons, mais mal organisés. Là.
Ah ouais?
Ouais.
Moutons mal organisés?
Mais non, mais c'est parce que c'était.
Le berger qui était mal organisé.
Je pensais que ça sert à les compter le soir avant de se coucher.
On n'était pas riches, mais vraiment pas riches. Disons, on était pauvres. Vraiment pauvres.
Ah ouais, OK.
Et mon père avait l'ambition de grandir, mais il se prenait mal. On va dire les vraies affaires.
Ah ouais.
Puis on avait des moutons dans toutes les granges abandonnées. Fait que le matin, avant d'aller à l'école, il fallait faire le train dans 3-4. Bâtiments séparés, c'était complexe. Et j'aimais pas cette vie-là.
Okay.
C'était pas. J'aimais la terre, j'aime
l'ambiance autour.
Mais pas la misère.
Ouais.
Et moi, je voulais me pousser de ça là, quand j'étais allé au cégep. Là, la minute que je ne pouvais pas, que j'étais pas obligé de revenir à la ferme, j'étais heureux. Mon père n'était pas content, mais il venait perdre une paire de bras.
Ouais, c'est ça.
Moi, j'étais heureux, là, cette misère-là ne m'intéressait pas. Puis. Puis je pensais jamais revenir
à
la terre, tu sais, parce que bon, je suis parti de là, puis mes premiers jobs, ben c'était sur les terres des autres personnes, tu sais. J'avais 14 ans.
Les voisins, genre?
Mais les voisins, puis ils voyaient que j'étais prudent, tu sais, j'avais une maturité qu'un jeune de 14 ans n'avait pas, parce que moi, j'avais toujours un but dans la vie, de réussir, et je voulais pas perdre la confiance des gens. Et je voulais jamais. Puis je regarde mes deux garçons, c'est la même chose. Ils veulent pas les savoir, puis c'est des bons travailleurs. Et bon, on me faisait confiance, donc on me faisait conduire des tracteurs des autres compagnies, des autres fermiers. Parce que tu ne pourrais pas être tracteur à un jeune de 14 ans.
Mais non.
Puis là, ben, je le faisais pour d'autres personnes. Puis à un moment donné, j'étais bien payé. Je faisais mon père, je faisais l'autre voisin, j'allais faire l'autre voisin. Puis je travaillais tout le temps, mais j'avais de l'argent, puis j'étais heureux.
Ouais, c'est ça.
Ça me permettait d'acheter de la bière en cachette parce que mon père. mon père était le président du comité des loisirs à Notre-Dame-la-Paix.
OK.
Et il y avait un festival, il s'appelait le Festival de la Patate. Et on avait 14 ans et on voulait acheter de la bière. Si tu veux apprendre à boire, ce que tu ne sais pas. Fait que puisque j'avais de l'argent, ben, j'envoyais des chums acheter de la bière à mon père.
Mais
mon père, lui, était cool, il en vendait au
Il savait pas que c'était pour son gars, finalement.
Ben non, mais il l'a su plus tard, parce que moi et mon cousin, on est revenus pas mal sous.
Ouais, c'est ça que j'allais dire. Il est scrap à la maison.
On est revenus pas mal scrap à la maison. Il a compris qu'on l'avait acheté.
Ouais, c'est ça. Que le cercle vicieux revenait. Exactement. La bière revenait vers toi.
Exactement.
Rapidement. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, avant de recommencer sur les terres, tu sais, François Lambert, comme tout le monde, était là au primaire et au secondaire.
Ouais.
Et moi, il y a quelque chose qui m'a fait rire. Tu sais, au primaire, t'as fait comme trois écoles différentes. Mané, tu t'es ramassé dans une école hyper catholique à Saint-Émile-de-Suffolk. Est-ce que je me trompe?
Non, mais c'est ça, parce qu'on venait de déménager. Mon père était grossiste pour les 5-10-15. Vous autres, vous n'avez aucune idée c'est quoi.
Non.
Mais c'est l'ancêtre des Dollarama, les 5-10-15.
Ah,
c'était des kiosques un peu partout dans les dépanneurs, puis un peu partout. Et mon père, lui, ben, il faisait venir de Taïwan des bébelles à 10 cents.
Okay. Donc,
imaginez-vous, les bébelles à 10 cents, là, comment. Puis c'était Made in Taiwan. Aujourd'hui, on en voit moins de Made in Taiwan, mais c'était très populaire.
C'est vrai?
Quand j'étais jeune.
Niveau petit jouet, bibelot, là, je me souviens quand j'étais jeune.
Des niaiseries.
Mais 5, 10, 15, c'est 5 sous, 10 sous, 15 sous?
Exactement.
Ah ouais?
Ah ouais, okay.
Fait que, tu sais, bon, mon grand-père avait ça, mon père l'a racheté de son père, mais il n'aimait pas ça. Fait qu'il a vendu à l'âge de 33 ans, puis on est allé sur une terre.
Okay.
Ben, je me souviens, moi, on partait d'une place, une belle maison à Laval, et là, on arrive vraiment le temps d'une paix, mais encore plus reculé.
Ah ouais, hein?
On part d'une place où chacun des enfants, on était 4 enfants, on a chacun une chambre, à 4 enfants,
dans la
même chambre.
Sur une terre.
L'eau chaude, elle n'existe pas, il faut la faire bouillir. Donc,
ben voyons
non. On tombe dans la misère, mais mon père vit son rêve. Puis nous, t'es enfant,
vous le suivez.
Tu suis,
pas de question, là. C'est peut-être plus ma mère qui s'est posé des questions, qu'est-ce qu'on fait ici, tu sais.
Mais en nuit de Laval, c'est rare que tu dis ça.
Puis là, je suis parti d'une école à Laval à une école à Saint-Émile-de-Suffolk. Saint-Émile-de-Suffolk, la première, deuxième, troisième année était là. Moi, j'arrive en deuxième année. Mais là, j'arrive d'une place où on ne faisait pas la prière, moi, à Laval.
Non, c'est
là.
Ça.
Ah ouais.
Là, on arrive, là, tu fais la prière. Avant de manger, tu fais, tu récites, moi, je vous salue, Marie, pleine de grâce, merci pour ce repas, puis tout ça. J'ai fait comme
tard. Qu'est-ce que c'est ça?
Je pleurais en arrivant chez nous.
Mais quand tu sais pas, c'est quand tu viens pas de là.
École, tu fais une heure d'autobus, t'es perdu. J'ai beau avoir 7 ans, là, mais je comprends que là, je suis dans un autre monde.
Oh, ouais, c'est ça. Tu perds tes repères. Là,
complètement. Là.
Oui, tu perds des...
Mais c'est comme si tu reviens 20 ans plus tôt. Tu sais.
Ben moi, j'avais connu que la première année à Laval,
ouais.
Dans le modernisme. Et là, je tombe dans un mode hyper catholique sévère.
Ouais.
Tu t'assois droit.
Ouais.
Tu te fais taper ses doigts. Puis moi, je ne sais pas à ce moment-là que je suis TDAH.
Ouais.
Donc, j'étais un enfant turbulent dans les classes, moi. Je suis TDAH, mais les TDAH diagnostiqués dans ce temps-là, qui avaient du Ritalin, c'était ceux qui avaient des problèmes d'oppression, là.
Ouais.
C'est vraiment de violence.
Ouais,
et pas des enfants turbulents parce que c'était juste un tannant.
C'est ça.
Moi, j'étais juste hyper tannant, mais je voulais pas me faire pogner. Fait que je faisais toutes sortes d'inventions. Moi, je rêvais, là, j'étais assis, puis je me disais, c'était plate.
Ouais.
Tu t'emmerdais, facile, c'est ça?
Et je me disais, bon, faudrait que je me lance en affaires. Qu'est-ce que je pourrais faire? Fait que,
à 7 ans?
C'est malade, ça. Moi, ça me fait capoter, ça.
Honnêtement, je plaçais ma règle là, comme ça. Puis là, je mettais ça. Je disais, ah oui, ça. Qu'est-ce que ça va faire? Puis je pensais à ça toute la journée. Toute la journée, j'arrivais le soir, j'allais dans le hangar qu'on a démoli. J'ai pris une photo l'année passée. J'ai démoli cet hangar-là. J'allais là tous les soirs pour essayer d'inventer quelque chose.
De patenter quelque chose.
Un entrepreneur. Dans ce temps-là, c'était un inventeur.
C'est ça.
Ouais, c'est ça.
Tu te lançais pas en affaires, à moins d'avoir une invention, là. Donc, j'essayais d'inventer. Mais bref, Saint-Émile-de-Suffolk, c'était tout un choc. J'étais là en deuxième et troisième année. Après ça, on est allé à l'école centrale de Notre-Dame-de-la-Paix. Là, c'était la grande école.
Ouais,
là, je suis un grand, là. Ouais. Je suis en quatrième année. Mais je rencontre une professeure qui s'appelle Madame Larose. Là, j'avais rien connu à Saint-Émile-de-Suffolk. Elle, j'aimerais ça la revoir.
Ah ouais, hein?
Juste pour dire.
Une rencontre, là.
C'est un bourreau.
Okay.
Tu sais, les règles en bois avec quelque chose de métal, mais elle tapait pas sur le côté qui pliait, là. C'était
à la grande école, en quatrième année.
Oui. La rose, c'était d'une sévérité, là, digne d'horreur, l'enfant martyr.
Ben voyons.
C'est fou, quand même. Oui,
mais c'était des anciennes méthodes.
Oui, mais on remonte quand même pas en 1920.
C'est
là,
ça, tu sais.
En 1976, années
des années. Pas en première guerre, là, tu sais, mettons...
Et celle-là, je pense que je la verrai aujourd'hui, puis j'aurais encore peur de ce professeur-là.
Ah ouais.
Je dirais quand même qu'elle était vache.
Mais il n'aurait pas fallu qu'elle soit à Big Brother, mettons.
On aurait passé un mauvais regard. Mais sauf que à Big Brother, tu peux pas dire ce que tu penses.
Ouais, c'est ça.
Tout ce que tu penses, là, que tu détestes quelqu'un, tu dis « Ouais, mais c'est parce que si je lui dis... » Ben, elle a des alliés, elle va me le dire. Tu sais, tu peux pas.
Non, tu sais,
tu règles tes comptes en sortant de là. Tu
vas
régler tes comptes dans la maison. Ceux qui ont voulu régler leurs comptes dans la maison sont partis.
Ouais, c'est ça, on l'a vu. On l'a vu. Mais là, c'est ça. Moi, c'est. Il y a quelque chose qui m'a fait tellement rire quand on s'est parlé. Tu disais, quand au secondaire, mettons, t'étais dans l'autobus, puis t'es comme, t'aimais pas ça, puis tu sais, comme c'était long, puis l'école, tu t'emmerdais un peu. Mais là, toi, t'as fait, je vais spotter.
Ouais.
Explique-le, tu spottais la plus belle fille parce que t'avais comme un but. C'est toujours dans l'optique de comme réinventer quelque chose ou tout crache.
Ben non, mais je me disais tout le temps, OK, mais si il arrive la fin du monde.
Ouais.
Puis je suis seul avec une fille avec laquelle dans l'autobus. C'était des grands autobus. Fait que là, je me faisais un scénario. Et C'est drôle l'autre jour parce que j'ai revu la fille qui me faisait triper.
Pour
mais
vrai?
Mais pas pour vrai. Il y a une femme qui est venue chez nous et elle a écrit un livre sur Notre-Dame-de-la-Paix. On s'entend, Notre-Dame-de-la-Paix, avec les rangs, on est à peu près 300 personnes.
Ouais, ouais.
C'est
ouais,
un village qui ne devrait pas exister.
Ouais, ouais, c'est ça.
Ben, il y a une station au service, donc elle existe.
Ouais, mais parfait. Ça. Vraiment, la mairie est là aussi.
La question s'appelle Christine Lauzon. Et tout le long, c'était pas mal ma préférée d'année en année parce que c'était une belle fille.
C'était ton crush.
Aujourd'hui, mais c'est pas grave. Mais je la regardais, je me disais, ouais, c'est avec elle que je vais repeupler la terre.
Ah ouais?
Éventuellement, il y a peut-être en 2014, je suis tombé sur une série à Fox qui s'appelle Last Man on Earth.
Ouais.
Et c'était exactement tous mes rêves.
C'était ton scénario d'autobus.
C'était vraiment le fun. Mais tu sais, t'as rien d'autre à faire. T'as 1h10, 1h15 d'autobus à faire tous les jours.
T'es un
et
garçon,
tu dans l'une. La chauffeur d'autobus qui s'appelait Marjolaine, et elle conduit encore des autobus aujourd'hui, wow. La dame, là. Et était extrêmement sévère, donc tu peux pas niaiser. Et.
Je me mets,
moi, j'étais un rêveur. Mais je rêve encore aujourd'hui, tous les jours, mais je rêve éveillé.
Oh, ouais. Ouais,
je rêve pas en couleur, mais là, je me disais, ouais, avec elle. Puis là, l'année finissait, je disais, oh my god, j'aurais plus de rêve à faire, je la verrai plus.
Ouais, c'est ça. Tu t'attaches, tu sais, tu t'attaches, là.
C'est drôle parce que. Bon, je suis très actif sur les réseaux sociaux.
Ouais, ouais.
Et la semaine passée, je fais un direct à tous les soirs à 5 heures. Puis une fille commence à me parler. Je dis, écoute donc, toi, es-tu la Carole Saint-Pierre qui habite dans tel rang? Elle me dit oui. Ben, j'ai dit, je t'annonce que j'ai trippé sur toi.
Ah ouais?
Le monde est petit.
Ouais, ouais.
Non, mais c'est sûr que tu dois être une superstar là-bas, là, ouais, dans cette ville-là. Là.
Ben, superstar. Toute personne qui font de la télévision comme toi ou même, ouais. Je te connais moins un peu. Ouais. Mais dès qu'on est un peu connu dans un petit village,
ouais.
Les gens ben, ils veulent te toucher.
Ah ouais, c'est ça.
Non, mais c'est vrai.
C'est le miracle qui est sorti de là.
Maintenant, j'ai une entreprise dans ce coin-là. Ouais. On embauche de 25 à 30 personnes. Je mets le village à la map à tous les jours. Fait que c'est sûr
ben
qu'il
oui,
y a une fierté
ben oui, vraiment.
Du gars qui revient. Mais petite anecdote, la première journée que je suis sorti de Big Brother, bon, ça fait quand même depuis 2012 là, que je fais de la télévision,
ouais.
De la radio, un peu de tout. Et j'ai toujours eu les gens, ah, salut, je trouve ça cool, je suis pas d'accord avec toi.
Ah, ouais.
Mais en sortant de Big Brother, la première journée, j'étais allé faire mon épicerie, impossible.
Ah ouais, c'est sûr.
C'était un autre niveau parce que là, les gens, ils m'ont vu tout l'hiver.
Ah ouais.
Fait qu'ils se sont comme
Écoute.
C'était intense, drôle. Ma blonde est partie faire l'épicerie, puis à la fin, ben, je suis allé la rejoindre dans l'auto.
Pour vrai, hein?
J'étais incapable d'avancer.
Mais
c'était le fun.
Surtout le timing, tu sais, le timing de pandémie, tu sais, les gens étaient comme rivés sur leur TV.
Mais
Big Brother a amené.
Oui,
c'est ça,
c'était
immense.
Mais oui, puis les gens, on était proches, puis là, on était en bobette, on souffle, on rit, on pleure. Les gens sont.
Ben, c'est une télé-réalité.
Ah ouais, c'est ça. Puis, ça a été un
hit. Mais normalement, les gens en campagne sont toujours...
un peu détachés.
Les gens à Montréal sont plus détachés. Ils te reconnaissent, mais ils font un semblant.
Ouais. Mais ça dérange pas.
Parce qu'il y a plus d'offres.
Ben,
c'est ça.
Tandis qu'en campagne, dans toutes les places où je vais donner des conférences, c'est sûr que si je vais prendre une bière après...
C'est
quelque part, c'est la folie, mais c'est correct.
Tu t'en fais payer une vingtaine.
Ouais, t'es obligé de demander à tes amis qu'ils l'achètent à ton père. Là.
Non, tu vas t'en faire payer. C'est un problème parce que quand je fais les salons du livre, surtout au Saguenay, ben, je vais toujours manger à la même place après. Et j'ai dit au serveur, maintenant, quand j'arrive, je dis, garde tes shooters, mets-moi de la liqueur là-dedans. Là.
Moi, je conduis après,
je peux pas me taper 25 shooters.
Non, c'est ça. Tu sais, l'intention est bonne, mais de m'amener.
Ben oui, mais c'est ça. Les gens sont gentils, mais je peux pas me souvenir.
Je comprends. Et après, secondaire, tu étais allé au cégep, puis toi, tu es rentré, ton preuve, tu sais, dans l'optique que tu voulais travailler, tu sais, comme
entrepreneur
ou, tu sais, dans le temps, inventeur. Premier rêve de job, c'est, tu l'as dit au début, vétérinaire.
Oui.
Tu sais, c'était ça ton but.
Ben oui, parce que je viens d'une ferme et le premier, à part mon père et mon grand-père, que je vois comme entrepreneur, c'est le vétérinaire qui vient. Et le monsieur, c'est un Yougoslave.
Ah ouais?
Oui, oui. Et une grosse voix. Et lui, il est toujours de bonne humeur, il fume des cigares, mais toujours de bonne humeur. Pied gros. Okay? Mais c'est sa joie de vivre qui m'impressionne.
Okay.
Et aussi, il y a une anecdote que je t'ai pas dit en pré-entrevue. Je voulais la garder pour ici.
Wow.
Il arrivait tout le temps, puis il me disait tout le temps, tous les fois qu'il venait, OK? Combien pour le petit garçon?
Mais ben voyons donc.
Là, mon père, il disait, ben, on va négocier ça pendant que tu t'occupes des moutons, puis
ben voyons donc.
Après. Fait que moi, là, je suis là, j'ai 10 ans. Il y a un monsieur qui veut m'acheter. Mon père, il dit, on va en discuter tantôt. Fait que, Ben, ça a duré peut-être pendant 3-4 ans.
Ben voyons là.
Capoté.
La chienne qui m'achète puis qui parte.
Ben voyons là.
Tu sais, aujourd'hui, c'est le genre de joke qu'on peut pas faire. Oh, ouais. Mais il faut se remettre en contexte. Ben, c'était drôle. Puis je me disais, ah, OK, le gars, là, il vient nourrir les moutons. Il est de bonne humeur. Il fume des cigares. Il veut m'acheter.
Il mange ce qu'il veut.
Puis mon père, il donne de l'argent en partant. C'est la vie. À part acheter des enfants.
Tout a un prix, hein? Tout a un prix.
Fait que je trouvais ça cool. J'étais au cégep. Et tu pars de la campagne drillé par tes parents.
Ben ouais, complètement.
Et là, tu arrives en ville et j'étais à Gatineau, dans un environnement lousse.
Ouais.
J'habite chez un joueur de hockey qui joue pour les Olympiques de Hull.
Okay.
Et c'est l'année de Luc Robitaille, ceux qui connaissent le
mm-hmm. les grandes années. Ouais.
Et ils finissent ben trop de bonheur la saison. Ils font pas les séries. Ils partent des points. Fait que moi, je ne vais plus à l'école.
Ouais, c'est
fait
ça.
Que là, je me rends compte qu'étudier pour vétérinaire, ça devient impossible. Ouais, et de trop. Deux, faut le dire que j'étais toujours drivé. Tu sais, j'ai parlé des filles dans l'autobus. Mm-hmm. Là, les vétérinaires, dans ce temps-là, il fallait aller à Saint-Hyacinthe encore aujourd'hui, mais c'était 80% des hommes. Puis là, moi, je venais de découvrir les femmes. Là, moi, il faut se remettre en contexte. J'étais un grand de 6 pieds, 110 livres. Je ne pogne pas que les filles. Okay? Je les aime bien.
Il y a juste un monsieur yougoslave qui veut t'acheter.
J'ai des lunettes, j'ai des boutons. Ok. Puis là, je suis avec des joueurs de hockey. On s'entend que j'ai aucune chance, même les restants là, de filles, les joueurs de hockey qui ne voulaient pas. Mais j'aimais les femmes pareil. Mm-hmm. Et je me disais, je peux pas aller pendant 5 ans étudier avec des hommes. Ça n'a pas de sens, j'aurai pas de fun là-bas. Maintenant, là, ceux que ça intéresse pour aller vétérinaire, c'est le contraire.
C'est ça.
Fait que j'ai changé complètement à cause de ça, mais ça m'a amené vers l'administration et la finance pour éventuellement, moi, je voulais être sur le parquet de la bourse.
Mon premier rêve, c'était vraiment ça que tu voulais.
Oui, oui. Puis dans ce temps-là, c'était le loup de Wall Street. C'est dans ces années-là
Jordan Belfort.
Jordan Belfort qui faisait la pluie de beau temps.
Ah, ouais.
Et il y avait les pink sheets à ce moment-là. Ouais. Justement, dans le film de loup de Wall Street, c'est avec ça qu'il fourrait le monde.
Mm-hmm. Ah, ouais.
C'est avec les pink sheets. Mais moi, je ne voulais pas fourrer le monde. Là. Je voulais faire cette vie-là sans les prostituées, sans la coke, sans fourrer le monde. Mais le film n'était pas sorti. Mais c'est ce que je voulais vivre comme trip, des rushs d'adrénaline. Moi, je ne marche qu'à l'adrénaline. Mm-hmm. Et c'est ce que je voulais faire. Mais en 87, il est arrivé un gros crash.
Ouais.
Ouais.
Et en 89, quand j'ai fini, il n'y avait plus de job là-dedans. Un, c'était informatisé. Et les peu de jobs qu'il y avait, il n'y en avait plus.
Ouais.
Donc, j'ai dit, bon, je fais quoi? Je rentre au gouvernement. Et au gouvernement, pendant... étant donné que j'avais déjà de l'expérience de travail, parce que dans... Bon, je voulais être vétérinaire, puis je me ramasse finalement analyste financier au gouvernement. Mais entre ça, il y a une anecdote qui est importante.
Oh, oui, c'est ça que j'allais dire. Au cégep, tu t'es fait faire une petite passe-passe.
Ah, une grosse passe-passe. Mais tu sais, la résilience, des fois, tu dis, bon, je fais quoi?
Oh, oui, c'est ça.
J'étudie en comptabilité, je suis fier, j'arrive l'été, on m'offre un poste, genre, je vois une description de tâche. 7$ de l'heure, comptable à Ken.
7$.
Ben voyons donc.
Mais le salaire minimum est de 4$, là.
Oh ouais, mais quand même. Sens,
fait que là, j'ai fait comme, aïe, c'est le double du salaire. Bon, OK, j'ai 25-30 km à faire.
Ouais.
Ça se fait.
C'est pas grave.
Mais t'avais pas fini ton cours au cégep, là.
Non, non, là, c'était un cours d'été. C'était.
OK, OK, je comprends.
C'était un job d'été.
Okay. Un job d'été. OK, ouais.
Et moi, je dis, ben, hey, c'est parfait, j'arrive là. On me dit, parfait, il faut faire monter un logiciel. Il y avait un informaticien qui est embauché aussi pour ça, comme moi. Et deuxième journée, on fait rien. On dit, coudonc, il n'y a rien à faire ici. T'sais. Et la troisième journée, on donne une paire de ciseaux. Ben, en attendant qu'il y ait quelque chose à faire, pouvez-vous aller couper les fleurs des fraises?
Ben, voyons donc.
Mais là, imaginez-vous à perte de vue. Là. Imagine-toi, tu es en Alberta, là, puis tu regardes, tu as rien que des chandelles.
Des plaines,
ben, moi, c'était juste ça.
Aïe,
aïe. À perte de vue, des
chandelles. Il n'y a pas de chiffres à compter, là.
Il n'y a rien à foutre de comptabilité ni d'informatique.
Ben, c'était une crosse.
Oui, parce qu'un scam. Oui, c'était une subvention qu'elle a eue, mais il fallait qu'elle crée des jobs en informatique et en comptabilité.
Ben,
oui.
Ça tentait pas de le dire dans notre
entrevue.
Ben, non, parce que ça.
Ça n'a attiré personne,
J'attirerai pas personne.
Tu sais, j'imagine que des jobs à 7$ de l'heure dans ce coin-là, ça ne courait pas les rues non plus, là.
Ben, il n'y en avait même pas à Montréal ni à Gatineau. Ça allait être 4$ de l'heure.
4$.
Fait que moi, je disais, 7$ de l'heure. Puis là, on me donne une paire de ciseaux. J'aurais pu chialer.
Ah, vraiment.
Mais de toute façon, je venais d'une ferme.
Ouais.
Fait que mon père, moi, toute ma jeunesse, j'arrachais des clous après des vieilles grandes.
C'est ça.
Fait que couper des fleurs, j'étais en vacances.
T'es payé 7$ de l'heure.
La vie est belle, là, tu sais. Fait que je coupe des fleurs. Je dis pas un mot. Puis à un moment donné, je me disais, il y avait des tracteurs, mais moi, tu sais, je vous l'ai dit tantôt, je conduisais des tracteurs pour d'autres personnes. Là-bas, j'avais pas le droit. Il y avait un gérant. Ah ouais. Un gérant
qui devait être plus qualifié que lui.
Ouais, c'est ben ça, oui, c'est sûr que oui.
Ma vie, ben ouais, ouais, exact. Il venait d'apprendre. Ben, manier,
ça devait être chicoté, là.
Ben, je disais pas un mot. Moi, tu sais, dans toutes les places que j'arrive, je prends pas ma place.
Résilient,
ouais. Je gagne ma place.
Ah, ouais. Oh, exact.
Donc, je suis pas le gars qui.
T'assumes pas que. Ouais. Je prends pas pour acquis, là.
Ben, je suis pas le gars qui arrive et dit, tasse-toi quand je suis qualifié là-dedans.
Donne-moi une chance, puis je vais te montrer.
Je ne même pas.
OK.
Puis là, à un moment donné, il est pris avec un tracteur. Il me dit, tu viendrais-tu me donner un coup de main? T'sais, il dit, t'as juste à peser sa cloche. Puis je suis pas, tu sais, j'aurais pu lui dire, hey, regarde, ça fait. J'ai 20 ans, ça doit faire 14 ans que j'en conduis tout seul.
Tasse-toi, ouais.
Ben, je dis pas un mot. Puis là, il essaie de me tirer, puis il est pas capable. Là, j'ai fait, mais regarde, on va changer de place, tu sais, ça va être plus facile. Puis là, à un moment donné, je l'ai sorti du trou, puis il a fait comme, ben, OK, t'as déjà conduit ça.
Ah, ouais, ben oui, 14 ans, je chauffe ça.
Fait que là, j'ai commencé à conduire des tracteurs, donc je venais de gagner
en
galon. Mais le gars était, il s'appelait Roger Vaillant. Et Roger Vaillant, il fait même partie de mon livre parce qu'il a fait partie de mon... Tu sais, le fait que j'ai dit oui, le gars avait une distribution de magazines, il y avait des librairies et c'est un homme d'affaires à succès. Et ben, quand il a vu que j'étais bon, résiliable, pas chialeux, il me disait, hey, François, viendrais-tu travailler pour notre distribution de magazines? On distribuait tous les magazines anglais et francophones dans la région de Gatineau puis tout le Pontiac, le Maniwaki.
Ah, ouais, Maniwaki.
Et il y avait un logiciel, puis il me dit, il y a un bug. Je dis, OK, et tu pourrais-tu le régler? Mais il n'y a pas de Google dans ce temps-là.
Non, rien, c'est ça, là. C'est, tu fais ça.
Je ne savais même pas c'était quoi le mot bug. Fait que j'ai demandé à mes chums, Denis Rossignol, je lui ai dit, hey Denis, tu travailles en informatique, c'est quoi le mot bug? C'est parce que ça ne marche pas. Je dis, OK. J'ai ouvert le livre, OK? Pendant une semaine, j'ai ouvert le livre pour essayer de comprendre. J'ai appris à programmer et j'ai reprogrammé le système.
Ben, voyons donc.
Et là, je suis parti d'une job à peu près 10 heures par semaine à travailler à temps plein. L'entreprise est partie de 300 000 de chiffre d'affaires à 5 millions
en
2 ans. Et là, je me suis pensé big.
Ah ouais,
je comprends. Là, je suis allé le voir, je disais, Roger, j'allais à l'école à temps plein.
Je veux des parts, là.
Non, mais là, je gagnais comme 24 000 par année. Et je lui dis, là, je pense que je vaux 30 000.
Lui, OK.
Non. Ah ouais. Il m'a dit, pourquoi tu penses ça? Ben, je lui disais, regarde tout l'argent que je te fais faire, tu sais, regarde tout ça. Alors, il dit, toi, tu ne calcules pas les dépenses. Je dis, non, puis de toute façon, je suis indispensable, j'avais dit ça.
Ah ouais.
Fait qu'il m'a dit,
ben,
va-t'en chez vous. Bye. Moi, le lendemain, chez nous, j'ai dit,
il va me rappeler.
Il va me rappeler.
Arrête.
Ben, j'attends encore. Il est décédé maintenant, mais il ne me rappellera jamais. Mais j'ai eu ma première leçon de faire, OK, c'est sûr qu'une entreprise peut dépendre d'une personne ou l'autre. Ça se peut qu'elle n'arrache.
Ouais, ouais, clairement.
Mais il n'y a jamais personne qui est indispensable.
Non, exact.
C'est
ça. Et ça, je l'ai appris tôt dans ma carrière. Et tant mieux, je le remercie pour ça. Puis même aujourd'hui, je l'utilise. Quand les gens se pensent indispensables, je dis, ben, pars en vacances. Tu vas le voir, c'est indispensable.
C'est ça. Ah, c'est tellement
mais c'est
bon,
ça. Hein? Y a de quoi, je trouve qu'il y a de quoi de beau. Tu dis que de partir en affaires, c'est dans ton ADN. Puis c'est comme cette personne-là devient comme la première personne que tu vois que... son entreprise grossit, marche. Ouais. Fait que, tu sais, comme, j'imagine que tu t'es beaucoup fié à lui, tu sais, de comme, moi, c'est comme ça. Ben, tu sais, pas, t'as ce sentiment de liberté-là que toi, tu veux faire tes affaires, mais tu sais, c'est la première fois que t'as comme un modèle que c'est plus tangible que, mettons, ton père sur la ferme ou.
Ben là, c'est parce que je vois un entrepreneur qui me ressemble.
Okay,
un
bâtisseur
d'entreprise.
Okay.
Et qui laisse la liberté aux gens.
Ouais,
parce
que,
tu sais, pour bâtir des entreprises, tu peux pas le faire toi-même.
Mais non.
Faut que tu laisses la liberté aux gens avec qui tu travailles. Puis il m'en laissait quand même énormément. Et j'étais responsable d'avoir monté tout ce réseau-là.
Ah oui.
Mais c'était pas mon entreprise. Puis il me payait déjà bien compte tenu des circonstances.
Ah ouais.
Et il n'avait pas aimé que j'aille le menacer.
Ah ouais.
J'arrive à prendre une autre approche. Ben, c'est ça, j'étais devenu arrogant. Et il y a toujours une mince ligne entre la confiance et l'arrogance.
Ouais,
j'étais confiant dans la vie. Mais dès qu'on tombe dans le côté arrogant, ben, tu perds beaucoup.
C'est ça.
Et j'étais tombé dans le côté arrogant quand j'étais le voir. Mm-hmm. Puis il m'a dit, ben, out.
Ouais, c'est ça, va-t'en.
Puis.
C'est quand même une claque dans la face, là. Quand
c'est
quand
une claque.
Parce que j'imagine que tu pensais réellement
c'est ça,
que t'étais.
Exact.
Ah, j'ai non, moi j'étais.
T'étais convaincu.
Dans ta tête, t'allais l'avoir le 6 000 de plus, là.
Puis même à ça, il m'en offrirait plus, là.
OK, t'sais, OK, OK.
C'était des peanuts que
tu faisais. Tu faisais
un deal.
Je faisais un deal, mais c'est pas comme ça que ça marche. Et tu sais, dans la croissance, tu sais, il faut payer nos employés très bien.
Ouais.
Et moi, c'est ma philosophie
de
bien payer les employés. Mieux, si on peut, que la compétition.
Mm-hmm. Ouais.
Mais à un moment donné, une entreprise, pour grandir aussi, se doit de faire des profits,
doit
de réinvestir. Et les employés qui deviennent trop gourmands, à un moment donné, il faut que tu le dises, relax.
Mm-hmm.
Il y a un moment pour chaque chose.
C'est ça.
Et c'est pas le moment à l'occasion. Là.
Fait que si un jeune François Lambert écoute, Et admettons qu'il travaille chez, je sais pas, il travaille chez Fido. Puis là, il dit, moi, je veux rentrer demain, aller voir mon boss, donne-moi 6 000 de plus. Fait que le conseil que tu peux leur donner, c'est...
Dans les grosses entreprises, c'est plus compliqué.
Ouais, ouais, ouais.
Mais dans les petites entreprises où que ça se négocie,
ouais.
Ben, tu sais, il faut que toujours tu arrives... Tu sais, les gens, souvent, même dans les réunions d'année avec les employés, ils m'amènent puis ils disent, j'ai fait des heures. Moi, les heures, là,
ouais.
Rien savoir.
Ah ouais.
OK? Ça ne m'intéresse pas le nombre d'heures que tu fais. Ce que je veux savoir, c'est tes réalisations.
C'est ça.
Ouais, c'est ça.
Moi, honnêtement, qu'un employé payé 37h30 puis en fait 30, là, hey, je suis heureux. Là.
C'est ça. Ouais, mais tant qu'il l'a fait, ouais.
Fais-le.
Ouais.
Moi, ce qui est important, c'est les réalisations. Puis quand un employé me dit, ben j'ai fait tant d'heures, moi, je lui dis, je ne veux pas savoir combien tu m'as coûté.
Qu'est-ce que tu as fait, c'est ça?
Je veux savoir combien tu m'as rapporté.
Ouais, ouais.
Donc, qu'est-ce que tu as fait pour l'entreprise? Si tu es rentable pour l'entreprise, je vais t'augmenter à l'infini.
OK,
c'est okay. J'ai pas de limite d'augmenter quelqu'un.
Ouais.
C'est une question de rentabilité, une question de justice envers tout le monde. Là.
Mm-hmm.
Mais pour moi, un employé, si je regarde un employé et je lui dis, tu me coûtes cher, ben, si je te le dis à midi,
c'est pas bon signe, ça.
Normalement, tu restes pas jusqu'à 5 ans. C'est parce qu'il y a un problème. Là,
tu vas me coûter une boîte, pas une tes affaires.
Ben, c'est parce qu'à un moment donné, un employé doit être, peu importe l'employé dans une entreprise, aucun employé ne doit être un poste de dépense, c'est tout un poste de revenu, tout le monde travaille pour le client, peu importe ce qu'on fait.
Mais là, moi, je trouve ça super intéressant. Mais là, le crunchy s'en vient. Là. Moi, j'ai adoré. Je trouve ça malade, là, la lignée des choses. Là, comme, clairement que cette demande-là et cette réponse-là de monsieur, c'est quoi son nom déjà?
Roger Vaillant
a créé quand même boule de neige dans ta vie parce que là, tu as commencé à travailler au gouvernement fédéral comme analyste financier après et je pense pas que tu as trippé.
Ah, je me suis ennuyé à mourir. Mais j'étais bon au tennis par contre.
Y a-t-il un lien?
Ben oui, parce que je finissais, on travaillait de 7h30 à 3h30.
Ah, ben oui.
Les cours de tennis étaient très occupés à partir de 5h.
Fait que tu avais 1h30 pour aller pratiquer ton.
Moi, ça, le but, c'était de sacrer mon camp du bureau. Et puis, on travaillait, là, c'était pas fait pour moi.
C'est pour ça qu'ils appellent ça Service Canada.
Tu sais,
Service Canada, OK.
À 3h25, on attendait en ligne. Que 3h30 arrive pour pouvoir passer.
Ah, hey, ouais,
ça avait.
Fait que toi, t'étais un poste à dépense, là. Tu coûtais, dans l'optique.
Non, mais je veux dire,
j'étais pas un asset, puis je m'emmerdais. La seule chose que je comptais, comme je travaillais dans un département de comptables où la plupart étaient assez âgés, eux autres comptaient leur journée de maladie avant de déclarer un burn-out pour pouvoir partir.
Tabarnouche.
Mais là, moi, je commence ma carrière, puis je suis rendu à 75 journées de maladie où j'étais jamais malade. Et là, j'ai fait, c'est pas ça, la vie. Mais ça prend un déclencheur dans la vie.
Ouais,
parce que
clairement.
Est-ce que j'étais heureux d'aller jouer au tennis? Vraiment, je joue au tennis non-stop, là. OK? Mais j'avais m'emmerdé.
Ouais.
Je sortais avec une fille qui était infirmière. Elle me laisse. Et là, j'ai fait comme, OK, c'est that's it. Je veux pas la voir avec son chum à tous les jours dans ma face. Je vais quitter la région de Gatineau parce que si je reste à Gatineau, je vais travailler pour le gouvernement fédéral comme consultant.
Ouais.
Ça ne m'intéresse pas. Fait que je me suis mis en danger. J'ai lâché mon poste que j'étais permanent au gouvernement.
C'est quand même.
Personne n'a fait. Ouais. Et je suis arrivé à Montréal, vraiment. Puis là, j'ai dit, OK, je recommence ma carrière. Je vais chercher l'expérience que j'ai et je dois me lancer en affaires.
Ça, t'avais quel âge quand tu étais quitté le...
Ben, je suis arrivé en 94. Je suis arrivé ici à 27 ans, 28 ans.
OK.
Ouais.
Quand même.
C'est quand même un move. Là, ben parce qu'à 27, 28 ans, il y en a qui sont setés, là, tu sais, qui ont des enfants.
Ah
ouais. J'étais seté, j'étais pas en forme parce que je me levais le matin, il y avait une chope de beignes, je mangeais des beignes.
Mm-hmm.
Café, double, hein, on n'y est pas, deux crèmes de sucre. Des beignes, en veux-tu, en v'là. Rajoute le midi, des burgers. Je travaillais tard, le soir, des burgers. À un moment donné, je me ramasse, j'ai fait comme, ben voyons, je pèse 200 livres, je porte des 36. Je porte des 31 aujourd'hui.
Ah ouais.
Fait qu'en même temps qu'elle me laissait, j'ai dit, OK, là je viens d'avoir un wake-up call. Je suis pas heureux dans ma vie, ça paraît parce que la façon que je mange.
Ouais, c'est ça.
Et là, j'ai décidé de commencer à courir pour faire des marathons. Donc, en 3 mois, j'ai perdu 30 livres. Je fais mon premier marathon en arrivant à Montréal en 95. Et je fais 2h58 au marathon de Montréal. J'ai fait comme, aïe, je suis qualifié pour le marathon de Boston. J'ai peut-être un talent, mais il y avait déjà du talent dans la famille.
Ouais, ouais.
OK, ça courait.
Oui, mon frère est champion, il était champion canadien, il était champion panaméricain, c'est un coureur.
OK.
Fait que moi, je ne savais pas que j'étais un bon coureur. Mon but était de perdre du poids, puis je me suis rendu compte que je
c'est dans la génétique, ouais, c'est ça.
Ben, j'ai pas la même génétique que lui, nul plus que moi.
OK.
Là, puis je commence à travailler comme consultant chez DMR, qui est une boîte d'informatique, de consultation. Puis il me place chez Marconi. Marconi, c'est l'inventeur du télégraphe.
Ouais.
Donc, ceux qui ne connaissent pas encore ça, c'est le télégraphe de Marconi qui a annoncé que le Titanic coulait.
Oh, ouais.
Ah,
ouais.
Ah, barnouche.
Et bon, je travaille là, puis on fait l'équivalent de Waze.
Okay.
Mais en 1994-95-96, et pour le groupe Robert, les camions
Robert, camions.
Pour avoir une flotte et être capable de dispatcher, puis c'était nouveau.
Ça arrive à temps.
Ouais, c'est ça, puis les suivre, tu sais, j'imagine.
Les suivre partout, fait que c'est un gros logiciel, on travaille fort. Mais après 3 ans, je commence à m'emmerder, parce que moi, mon but, c'était de dire, OK, il faut que j'accumule un bagage d'informations, je dois me lancer en affaires. Mm-hmm. Fait que quand je finissais d'apprendre quelque part, ben je me disais, faut que je parte de là, faut que j'aille apprendre autre chose, sinon faut que je me lance en affaires.
Ah ouais.
Et je cherchais constamment mes idées.
Sentais que tu avais fait le tour chez DMR, c'est ça.
Et j'ai été passer l'entrevue. Ben, avant qu'on en commence à enregistrer, j'ai parlé de ma chemise bleue.
Ouais. Ouais.
J'arrive dans une entrevue. C'est vrai. une canicule, une chemise bleue, je suis détrempé de A à Z, je suis gêné. Le gars qui me passe l'entrevue, c'est Georges Caram. Et on devient collègue de travail. À un moment donné, lui s'en va travailler au Liban. C'est un Libanais d'origine. Mm-hmm. Il dit, OK, bon, parfait, je veux rentrer dans mon pays. Il rentre dans son pays. Moi, je m'en vais travailler à Toronto. Et en revenant, moi, je reviens de Toronto. J'avais eu un beau poste là-bas. J'étais vice-président. Ben ouais. J'avais la belle vie. Je reviens ici. Puis je suis parké dans l'entreprise qui m'avait envoyé là-bas. Puis j'ai pas de place. Il y a tous les postes sont pris. Puis j'ai rien à faire. Puis je m'emmerde. Mais ils veulent me garder.
Mm-hmm.
Mais ils peuvent pas mettre quelqu'un dehors.
Ben ouais,
ils sont comme mal pris. Georges revient, il s'emmerde. Là, on se regarde, on dit, ben là, on se lance en affaires.
C'est là le
trigger.
C'est le déclic.
Parce que là, moi, ma blonde est enceinte, je viens de m'acheter une maison, lui a 2 jeunes enfants, là, ça presse.
Il faut trouver
une idée, peu importe laquelle. On trouve l'idée du siècle. C'est d'utiliser la voix pour aller sur Internet. Ce que Siri fait, ce qu'Alexa fait aujourd'hui, on le fait en l'an 2000. Et
c'était
on était vraiment
précurseurs. Oui, c'est ça, exactement.
Métro. Tu sais, en affaires, il faut que tu sois 18 à 24 mois avant ton temps.
Pas 10 ans.
Ouais, pas 18 à 24
ans. Pas 18 ans.
Ouais, c'est ça.
Fait que c'est exactement ce qui est arrivé. On était bien trop en avance sur notre temps. Les gens utilisaient le service, c'était vraiment comme aujourd'hui, ils t'appelaient, puis une fille qui s'appelait Alice qui te répondait.
Mais voyons donc.
Oui, oui, au lieu que c'était dans ton téléphone, il n'y a pas de téléphone
indécis. Ouais, c'est ça.
Fait que t'appelais le 448-2888. Et tu sais, quand tu te lances en affaires, on n'a pas une scène.
Non,
mais le but,
ça.
C'était toujours de se bâtir des contacts.
Ouais.
Et quand j'ai travaillé chez Marconi, j'ai eu un contact qui s'appelle Pierre Az. Pierre Az, aujourd'hui, toutes les caméras à peu près dans la plupart des aéroports, c'est ces caméras qui sont là.
Tabarnak.
Quand tu pognes une étiquette parce que tu ne payes pas, que la police t'arrête à cause d'une caméra, parce
ouais,
que
ouais.
tu payes
c'est
pas,
lui.
C'est ces caméras qui sont sur les
choses. Il m'a pogné hier. Que...
Donc, tu as payé 444
non, mais j'ai pogné une étiquette de radar.
Mais quand tu... il fait ça aussi, mais quand la police te détecte avec ta plaque,
les
parce que tu n'as pas payé ton permis de conduire.
Okay.
Les scans,
ça m'est arrivé 2 fois.
Ah oui, ça m'est arrivé.
C'est
maudit Pierre Az.
Moi, je me suis lancé en affaire avec Georges, mais on n'a pas une scène. Fait qu'on va le voir, Pierre. Puis je dis, écoute, Georges ne connaissait pas Pierre. Je vais le voir, puis j'écoute, Pierre, on a une idée, on va faire un voyage pour toi, on a besoin d'argent. Puis il dit, combien? Bien, on a besoin de 50 000. Il nous fait un chèque de 50
000.
Et... nous autres, on était. La bourse m'a toujours passionné, mais encore aussi dans ce temps-là.
Ouais.
C'est la bulle Internet dans ce temps-là. Et on prend le 50 000 de Pierre, merci beaucoup. On achète des actions à bourse. On met 25 000 à la bourse, puis on dit, hey, ça, on va te le doubler.
Mais voyons.
Le crash arrive, on perd 25 000 à Pierre, c'est gêné à l'os. On achète un serveur pour notre fameux serveur Alice. On achète un serveur pour faire la voix, parce que dans le fond, c'était comme un web browser qu'on transformait. On transformait la voix en requête Internet. Puis, mais c'était moi le programmeur, mais pas trop bon programmeur. Et j'avais oublié de mettre dans le web browser, dans le web server qu'on avait, j'ai oublié de mettre une fonction qui s'appelait cache égale à yes, qui était par défaut, à cache égale à no. Et ça, c'est un trou pour les hackers.
Okay.
Et ce qui est arrivé... l'Internet coûtait cher dans ce temps-là. On est hébergé chez le groupe Télécom, puis ils n'ont pas de mécanisme de nous avertir qu'on est en train de péter la bande passante, mais littéralement. Fait que puisque je n'avais pas mis le cache égal à nous, on était en Amérique du Nord, le site d'hébergement, on avait de la capacité, là. On était le site d'hébergement des films porno.
Ben voyons donc.
À un moment donné, il dit, vous avez des dépassements de 22 000 $ d'Internet en 3 semaines.
Tabarnouche!
Fait qu'eux autres se sont passés par
le trou, ils allaient déposer les films porno
sur votre serveur.
Ben voyons
serveur,
donc!
Parce que les bandes passantes coûtaient cher. Fait qu'eux autres, ils redirigeaient.
Fait qu'ils ont fait un trou.
Ils ont fait un trou, ils déposaient les films porno. Fait que c'est plus eux autres qui payaient la bande passante.
Ils vous appartenaient, genre? Ou?
Ben, nous autres, on a bien découvert après. Ils disent, regarde, voici, puis voici ce qui se passe sur ton affaire.
Eh, hey, voyons après. Donc!
Puis là, on doit 22 000 piastres à Groupe Télécom. On a perdu 25 000 à bourse.
Ouais. Tu voulais perdre 22 000?
On a perdu 22 000. Okay. On a dit, ben écoute, gardez le serveur. On n'a jamais payé. On n'a jamais pu payer ça. Et là, ça ne marche pas notre affaire parce qu'on est trop en avance sur notre temps, le Voice Portal. Là, on fait, qu'est-ce qu'on fait? Parce que le plus dur, c'est de se lancer en affaire.
Ouais.
Mais là, on a dit, bon, ce qu'on faisait avant, on était consultant en informatique pour les centres d'appel.
Ouais.
On va retourner. On a appelé Fido. Et on dit, ben vous avez besoin d'aide, on est qualifié. Et là, Fido nous a embauchés.
Comme contractuellement, sous votre
consultant
compagnie.
Consultant pour les aider, parce qu'ils savaient que c'était nous autres qui avaient aidé la compagnie pour installer le logiciel. Okay. Et on a eu un mandat de 7 jours. Et on a resté là 18 mois.
OK.
Puis, entre-temps, pendant qu'on était là, je suis dans un meeting, puis ils cherchent quelqu'un pour faire du télémarketing, puis les autres compagnies disent non. Et tu sais, en affaire, si tu dis non, ben, si tu dis non à une opportunité, tu ouvres peut-être la porte à un nouveau concurrent.
Ouais.
Et c'est exactement ce qui est arrivé parce que les autres fournisseurs ont dit non, non, pas tout de suite, pas tout de suite. Mais dans ce temps-là, il y avait des campagnes de tous les fournisseurs. Bell, il y avait. Maintenant, on n'entend plus parler le nombre de nouveaux abonnés. Mais en 1997, 98, puis même 2000, jusqu'à 2004 à peu près, le nombre de nouveaux abonnés faisait foi de tout, là.
C'était comme les chiffres d'un show télé.
Effectivement, à chaque mois, là, ils disaient, OK, on a Fido, j'ai 1000. Ben, ça s'appelait Microcell dans ce temps-là. Ouais. On a tant de nouveaux abonnés.
Ah ouais, OK, c'était ça qui définissait.
Oui, puis c'était important.
Si c'est un succès ou non, c'est sûr.
C'est comme ton baromètre exact. Oh, ouais, clairement.
Ben, oui, parce qu'ils disaient, OK, tu as 100 000. Donc les gens disaient, OK, ben, tout le monde s'en va chez Fido.
Ça aussi, doit être bon, hein, c'est ça.
Ah, ben oui, c'est de la fidélité, puis ça va bien.
Ils embauchent la compagnie, dit non, une campagne qui s'appelle Winback. Nous autres, on entend ça. Puis là, je dis à Georges, il n'était pas dans ce meeting-là. Je dis, bien, depuis le temps qu'on veut faire autre chose, c'est peut-être le moment.
C'est peut-être notre porte.
Et quelle ça, c'est mercredi, mais on n'a pas de bureau, on n'a pas de serveur, on n'a pas de service de faire du télémarketing avec des logiciels. Mais c'est moi qui le maintenais chez Fido. Puis il y avait 125 places de libre parce que Fido venait de fermer un bureau.
Ah ouais.
Toute la technologie est là. Fait qu'au lieu de charger, très simplement, au lieu de charger 29$ de l'heure, qui était la norme dans ce temps-là, 29 à 30 piastres d'heure par employé pour faire du télémarketing. On a dit à Fido, on va vous charger 21 piastres, mais dans vos bureaux.
OK.
Ah. Fait que les trois premiers mois, puis bon,
tu payais pas de loyer.
Ouais, c'est
ça. Payais pas de loyer.
Aïe, aïe, aïe.
On payait moins cher les employés. Fait que nous autres, la première journée que cette entreprise-là est venue au monde, on est venu avec 20 employés, elle était rentable. On payait les employés 12 piastres d'heure avec.
Mais commission. Comment tu as trouvé tes employés si c'était.
Ah, on a passé une annonce dans les,
les journaux et tout.
Mais en dedans de trois jours, vous avez trouvé 20 employés?
Mais Georges s'en est occupé parce qu'il fallait que je continue de consultant. Fait que lui, il a passé une annonce, il a passé ses entrevues. Le vendredi soir, on a commencé, c'est moi qui ai fait la setup de la campagne de marketing. Et on a commencé avec 20 employés. La personne qui nous a fait confiance, elle dit, vous êtes bon, on savait comment gérer. Et il a dit, bien, on va renouveler pour une autre semaine.
Okay.
Et là, à un moment donné, à Noël, il dit, bien là, vous devrez penser à aller chez vous parce que là, vous êtes rendu à 180 employés.
Mais voyons.
Fait qu'on faisait plus juste du télémarketing.
C'était rendu plus
on
gros
faisait
que
le service à la clientèle pour eux autres.
OK.
Et pendant un an et demi, on a fait que Fido. On avait peut-être 300 employés. Puis après ça, le plus dur, c'était d'avoir un deuxième
bureau.
Mais deuxième client.
Contrat, ouais.
Okay, okay.
Entre-temps, on avait ouvert un bureau à Saint-Jean-Nouveau-Brunswick.
Okay.
Et là, à un moment donné, Bell, on rencontre Bell, on gagne l'appel d'offres, donc on a 300 nouveaux employés. Le mois après, Vidéotron. Et là, on venait de lancer une entreprise qui en
donne. Mais tout ça, en trois jours, là, quand tu as eu
Mercredi à vendredi soir.
Le mercredi à vendredi soir, on venait de créer une entreprise. Et Atelka, elle s'appelait Atelka, cette entreprise-là, n'était pas incorporée, là. Fait qu'on payait les employés par notre autre compagnie de technologie qui s'appelait Aiva Technologies.
Qui était le serveur avec les films de porn dessus.
Ah, oui, le trou noir, le trou du trou.
On n'a jamais fait ça, mais on s'est bifurqué pour faire des logiciels de centre d'appel.
OK.
Okay.
Et.
Fait que c'est la même incorporation que vous avez switché.
Ben, les employés étaient payés par Aiva, puis le nom de la compagnie, on disait que c'était Atelka, mais on n'était pas sûr que c'était pour Toffé. Fait qu'il y avait un nouveau moyen qu'on a attendu.
Puis
à Noël, on a dit écoute, il faut commencer à informatiser les chèques de paye. 180 chèques de paye à
signer. Aïe, aïe, aïe.
Et le moyen n'était pas créé, fait qu'on a tout créé ça par la suite. Et l'entreprise venait de venir au monde. Et moi, j'ai travaillé dans cette entreprise-là jusqu'en 2010. En 2010, je n'avais pas encore vendu, mais j'étais écœuré.
Okay. Plus c'était capable.
Pas, c'était pas ça que j'aimais faire. J'étais pas un opérateur d'entreprise. Ah, ouais. Je suis bon opérateur.
Ah, ça marche, là, clairement. Là.
Mais j'aime pas. Je me lève le matin et je m'emmerde de répéter la même chose.
C'est ça.
Moi, faire la même chose de jour en jour, c'est pas fait pour moi.
Non.
Fait que je suis allé voir mon associé, je garde. Je m'en ai chez nous. Moi, je suis plus un asset pour la compagnie.
Ouais.
Fait que je suis parti chez nous. Puis après 2 ans, on a eu une offre d'achat puis on l'a vendu.
Man, ça n'a pas de sens. Ça me fait
c'était le but de la vente, mais si ça n'avait pas été vendu, j'aurais eu des dividendes.
Fait que créer cette entreprise-là, ça a coûté zéro.
Zéro. Mais la plupart de mes entreprises, je ne dirais pas la plupart, toutes mes entreprises ont coûté zéro.
Ouais.
Je n'ai jamais lancé une entreprise avec
l'argent.
Puis
c'est ça,
ça me fascine. Ah, même derrière, aujourd'hui, là, qu'on est rendu avec un chiffre d'affaires qui est proche du 7 chiffres, ça fait 2 ans, on a commencé à vendre du sirop d'érable en ligne. Et j'ai parti ça avec 0$. Moi, je suis pogné avec 1000 gallons de sirop d'érable dans mon garage. Je ne sais pas quoi faire. Ma blonde a dit, on devrait créer un site web.
Parce que c'est chez vous, tu as des entailles.
Je fais ça pour le fun, mais tu sais, j'en fais plus que pour le fun. Là, je faisais 400 gallons par année. Fait que,
combien d'entailles que tu as chez vous?
J'en ai à peu près 3-4 000.
Mais
moi, je faisais ça pour le fun. Puis je me dis, je vais en vendre une coupe. Puis là, je me mets sur le bord du chemin au printemps. Puis là, ça n'a pas de sens. Le monde arrête pour une canne. Là, fait que là, j'ai fait comme, OK, ça marche pas, ce modèle d'affaires-là. Et on décide de vendre en ligne. Je dis, ça marchera pas. Ah, ben oui, ça a marché. On a vendu 1000 gallons en 3 semaines.
Ben voyons.
Et là, l'entreprise venait d'être lancée. Tout simplement. Mais là, encore aujourd'hui, il n'y a pas de financement. On s'autofinance à mesure que
c'est ça.
Mais là, avant qu'on tombe dans François-Lambert.one, moi, j'ai une couple de questions. Là, parce que ça a déboulé. Là, puis si je t'en flabbergasté, là, si, ça n'a aucun bon sens. Entre. Le 22 000 que tu as perdu, tu sais, admettons que M. Haas vous a prêté, tu sais, puis là, tu avais déjà perdu un 25 000 à la bourse, vous n'avez plus une scène.
Non, il n'y a plus une scène.
C'est quoi ton. Tu sais, comment François Lambert est dans sa tête? T'es-tu.
Le state of
excuse-moi,
mind.
Mais t'es-tu complètement décalissé ou t'es comme, on va trouver?
Moi, je ne suis jamais décalissé longtemps dans la vie.
Okay.
Ça n'existe pas parce que là, je me dis, OK, bon, on vient de faire une gaffe. J'ai encore la matière grise, je suis capable d'aller gagner ma vie autrement. Je retourne pas travailler pour quelqu'un. Fait que là, j'ai été consultant. C'est pour ça que je voulais faire. Parce que dans ma philosophie d'homme d'affaires, il faut facturer quand on dort. Mais quand tu es consultant,
tu as besoin d'être là.
C'est ça,
faut que tu sois là. Ouais. Je donne beaucoup de conférences. Bon, les conférences, c'est payant. Mais je me présente.
Faut que tu sois là.
Ouais, c'est ça, exact. Là,
vous faites des spectacles, c'est la même
affaire.
Donc moi, je me disais, non, faut que je facture pendant que je dors. Donc, facturer pendant que je dors, ça prend comme le centre d'appel.
Faut que ça roule,
Fait que non, moi, je dis, bon, OK, parfait, on va retourner travailler pour quelqu'un, puis on va se mettre de l'argent de côté.
OK.
Donc, on se gardait pas un gros salaire, on facturait quand même beaucoup. Là. C'était 2000$ par jour.
Okay.
Au lieu de jouer aux riches, on mettait ça de côté parce que notre but, c'était de trouver une autre idée. Et même encore aujourd'hui, il n'y a rien qui me met à terre, moi. Je peux, ça peut arriver pendant quelques heures, mais pas longtemps. Puis comment je fais? Le sport m'aide beaucoup. Le sport, quand je vois que une fuse qui est sur le bord de son côté, là, que je suis plus capable, que je suis pas endurable.
Tu
vas courir.
Penses-tu que le sport, ça a aussi la résilience quand tu te sens moins bien en train de courir, tu sais qu'il faut que tu finisses la course quand même.
C'est ça, il faut t'acheter au bout.
Il y a beaucoup de parallèles à faire avec le sport. Là. Nous, on a joué au hockey souvent. Puis, justement, une entreprise, c'est une affaire d'équipe. De pouvoir déléguer aux gens plus compétents que toi dans certains domaines.
Complètement.
Il y a beaucoup de liens. En tout cas, moi, je trouve que le sport et les affaires, il y a beaucoup de parallèles.
Le sport fait partie de ma vie, autant que de manger, autant que de jeûner. Pour moi, j'ai besoin de ça. Et pour moi, ça m'a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup. La course, la natation, le triathlon et tout.
Le dépassement de soi-même.
Ben ouais, c'est ça.
Ben, Mané, c'est parce que tu dis, OK, regarde, je suis plus endurable, je trouve pas de solution, je vais aller faire autre chose. Ben, Mané, t'es en train de courir, tu dis, yo, mon post-it, si je l'ai
mis. Bang.
Ou des fois, tu chicanes pendant que ton partner ou ta conjointe. Là, t'en vas courir, mais toi, t'en reviens tes zen. Elle est encore
Ça va. Faudrait que tout le monde aille courir. En fait, il n'y aurait pas de problème. Il n'y aurait pas eu de Deuxième Guerre mondiale. Tout le monde aurait fait, on va-tu jogger en 15 minutes? Il n'y aurait rien eu. Mais tu sais, là, admettons, ça, c'est arrivé. Perds tout. T'es décalcé pendant 1-2 heures. Va courir, joue au tennis, puis ça revient. Là, cette opportunité-là qui arrive, là, avec ton partner, l'affaire mercredi.
Oui.
Tu dis oui à Fido, vendredi soir, tu pars.
Oui.
Hey, moi, ça me donne le vertige juste à t'entendre.
C'est exactement ça que je. Ma question est. T'étais-tu. Tu sais, c'est sûr que t'étais nerveux quand même, parce que t'es comme. C'est une belle opportunité. Tu sais, je veux. Pas nerveux comme je me fais pas confiance, mais plus je suis fébrile parce que c'est peut-être ça. Tu sais, qui va faire que. C'est comment tu te sens? T'es comme.
Je sais pas. Parce que pour moi, être entrepreneur, c'est d'avoir une belle naïveté.
Mm-hmm.
Faut être naïf.
Ouais, ouais,
constamment.
Ouais, ouais, c'est bien dit.
Et pour moi, c'est juste, OK, il y a une opportunité. Mm-hmm. On va la livrer.
Mm-hmm.
That's it. Là, c'est un robot.
C'est un autre date. Ouais. C'est une date avec la vie que tu as.
Exactement. Là, il faut livrer ça. Et je suis pas en train de penser, je suis en train de bâtir un empire.
Ouais.
Je le sais pas.
OK.
C'est ça.
Je le sais pas. J'ai pas assez d'expérience comme entrepreneur à ce moment-là pour penser que je tiens dans mes mains. Et surtout que dans ce temps-là, les centres d'appel s'en allaient vers l'Inde, le Maroc, la Tunisie.
Tout partait, exact.
Et nous, on était à contre-courant à s'installer ici, puis on dit, ils vont revenir ici. Mm-hmm. Bien, c'est ça, on était en avance de 24 mois, comme je l'ai dit. Et pendant que les autres partaient, nous, on s'est installé ici. Il y avait des faillites à tour de bras dans les centres d'appel, parce que Montréal était la mecque des centres d'appel à un moment donné. Il y avait des subventions. Oui, le gouvernement donnait des subventions pour les centres d'appel. Toutes les compagnies venaient s'installer ici.
Ah oui, c'était la place.
C'était la place. L'argent que va dans les jeux vidéo en ce moment, ben c'était ça dans les
années. Ah oui, les centres d'appel.
C'était la mecque de l'Amérique du Nord était Montréal.
OK, tabarnouche.
Et bon, après ça, ils se sont rendus compte que c'était pas des emplois payants, il y a beaucoup de taux de roulement. Fait que le gouvernement, quand on s'est lancé, le gouvernement a arrêté de donner des subventions. Ouais. Je les aurais bien pris.
Ah, ouais, c'est ça.
Bon timing.
Dans ce temps-là, les gens facturaient jusqu'à 45$ de l'heure pour un employé. Quand on s'est lancé, nous autres, c'était à 30$ de l'heure. Quand j'ai fini, 2 ans plus tard, on chargeait 27$ de l'heure. Okay, ça, le minimum était monté de 8 à 12 entre-temps. Là.
Tabarnouche.
Fait que, mais,
fait que les gens étaient bien payés.
Pour moi, pourquoi? Parce que ça s'informatisait?
Ben, parce qu'il y avait de plus en plus de concurrence. Puis les marges étaient de plus en plus
petites. C'était petit,
le marché était divisé.
Mais pour moi, c'était pas... C'est, regarde, je sais que je vais le livrer.
Mm-hmm.
Tu sais, j'ai une belle naïveté de dire, écoute, on est préparé, on est capable de gérer des gens... On connaît comment ça fonctionne, le centre d'appel. Donc, on va le gérer puis on va le réussir. C'était comme ça que je le pensais. Parce que j'arrive jamais pas préparé.
OK, ouais, c'est
moi,
ça.
Moi, j'arrive pas
c'est
pas préparé. Ouais. Si tu me vois une compétition, dis-toi que je pense être capable de battre au moins le groupe d'âge dans lequel je suis.
Ah, ouais.
T'sais, j'arrive toujours préparé dans toutes les affaires. Et pour moi, ce qui m'a toujours tapé ses nerfs, surtout quand on est devenu très gros, puis là, il y a un VP. Moi, j'avais besoin des chiffres le matin.
Ouais, ouais.
Parce qu'il faut que j'appelle Belle. Belle veut savoir. Puis comment ça a été hier? Combien d'appels vous avez reçus? Combien vous appelez? Puis moi, un VP qui arrive, il dit, pas le temps, problème à la maison. Et que, t'es payé 250 000 par année. T'es un VP, là, tes excuses. Là.
Mal le faire.
Ben, regarde, lève-toi plus tôt, lève-toi plus tard. Tu veux être VP, ça vient avec
ça.
La préparation. Il n'y a pas d'excuses.
Non.
Moi, j'en ai pas d'excuses. On est arrivé préparé. Mon partner pense comme moi. Puis c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, 24 ans après qu'on se soit rencontrés, on est encore amis ensemble, on s'écrit presque à chaque jour, on voyage encore ensemble.
Wow!
Il n'y a jamais eu de chicane entre nous. Il y a eu des tensions.
Non, mais c'est normal. Là.
Mais il y a des moments donnés aussi où, quand je me suis tassé en 2010, on le sentait que là, il y en avait un des deux là, qui. On ne pouvait plus prendre des décisions.
Non, je comprends.
En communion.
En communion, là, tu sais. On savait qu'à un moment donné, c'était pour briser cette harmonie-là, parce que là, on avait confiance en nos moyens chacun.
C'est ça. Oh,
ouais.
Et on voulait plus laisser de la place à l'autre.
Je comprends.
Puis c'était parfait.
C'était une bonne affaire que,
que je m'attends.
Prendre un peu de step recul, back, c'est ça.
Oui, parce qu'à un moment donné, il faut que tu te rendes compte. Puis aujourd'hui,
mais ça prend de la maturité quand même pour faire un move de le prendre sur soi.
Oui, puis ça me tentait plus de toute façon de faire ça. J'avais été bon pour l'entreprise. Là, je commençais à être nuisible.
Mm-hmm.
Et je voulais faire autre chose. Puis je rentrais chez nous... rien foutre.
Ouais, c'est ça.
Pour me rendre compte que je m'emmerdais à mourir.
Oui, j'imagine, mais tu sais, si on parlait du sport, ça t'a amené cette comme de résilience-là, cette préparation-là, tu sais, ça t'a fait du bien toute ta vie, puis j'imagine que ça fait du bien sur ta confiance, mais est-ce que tu penses qu'il y a un lien qui est quand même assez fort de, toi, tu disais qu'à 6 ans, t'avais l'ADN des affaires, et tu sais, comme, tu sais, tantôt, tu disais, à 27 ans, tu quittes un job de permanent au gouvernement pour partir à zéro. Tu sais, tu baignes tellement là-dedans dans ta tête depuis un Christy de bout que, tu sais, quelqu'un qui se part en business, admettons, quelqu'un qui se part en affaires, puis ça marche, des fois, vont commencer à y penser, tu sais, secondaire, cégep, parce que sont plus entrepreneurs que leurs amis, puis ils réussissent à se partir une business de gazon, de, tu sais, c'est plus tard. Mais toi, que depuis que tu as 6 ans, tu penses à ça,
oui.
Ça t'a amené, j'imagine, une confiance quand même, parce que c'est toi, là, c'est
dans... Mais je me préparais,
c'est ça,
mentalement à dire, qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi j'ai peur de me lancer en affaires?
Okay.
Tu sais, parce que moi, c'était que ça. Là. Moi, j'aurais raté ma vie.
Ouais.
Si j'avais pas été tenté ma chance, je l'aurais raté. Et de toute façon, j'aurais été un mauvais employé toute ma vie.
Mm-hmm. Ouais, ouais.
OK, il aurait fallu que je trouve quelque chose parce que je m'emmerde à travailler pour quelqu'un. C'est pas que... Et puis, j'étais un bon entrepreneur. Là.
C'est pas que tu as de la misère avec l'autorité. C'est
j'ai juste... aucune misère avec l'autorité. Au contraire, c'est juste que j'ai besoin de me lever le matin et savoir que je dois qu'à moi et à mes employés.
Oh, ouais, je
et je dois pas rien à personne. Je dois beaucoup à mes employés. Je dois m'assurer qu'il y ait des ventes. Moi, ma job, là, c'est de m'assurer que les ventes rentrent continuellement, que je crée de l'emploi. Parce que je veux pas aller voir quelqu'un pour dire « Il y a moins de ventes, faudrait que tu rentres chez vous. » Ça, c'est ma responsabilité. J'ai pas la liberté de... J'ai l'obligation de créer du contenu à tous les jours pour ramener des ventes.
Pour ramener de l'eau au moulin.
Exactement.
Un peu une vie d'artiste, hein? Tu sais, quand tu y penses, là, t'sais, l'artiste, c'est de son art créer ça.
Mais vous devez créer constamment, vous devez être vu, vous devez faire des shows télé, vous devez faire des shows radio, vous devez créer du contenu sur le web pour que les gens disent « Hey, il est popé, ben allez le voir, lui. » Tu sais, t'attends pas chez vous que les choses se créent. Ben, c'est ce que je fais aujourd'hui. Mais moi, c'est sûr que si j'avais pas été entrepreneur, j'aurais été malheureux. Mais tu sais, je suis pas un entrepreneur comme les autres. Je suis pas un entrepreneur qui est dans un bureau... Et que je me vois pas rentrer au bureau à 75, 80 ans puis dire, OK, je travaille encore. C'est pas de même, moi, que je veux que je gère mes entreprises. Moi, honnêtement, moi, je veux avoir des employés qui sont libres, qui ont des responsabilités, un bon salaire, livrer la marchandise. Ouais. Mais tu le vois que même dans toutes les entreprises, il y a des jeux de coulisses tout le temps, peu importe le niveau.
Ouais.
Et ça me tape ses nerfs. Même encore aujourd'hui, dans mon entreprise, il y en a à un moment donné, puis je suis obligé de retourner sur place. Vous dites, hey, arrêtez votre niaiserie.
Get your shit together.
Exactement. Mais tu sais, c'est le but. Tu sais, dans le fond, quand je regarde ça, tout mon parcours, moi, j'ai toujours voulu avoir du plaisir dans la vie. Et c'est ce qui te caractérise. Tu sais, je peux être de mauvaise humeur. Ça m'arrive souvent d'être de mauvaise humeur, mais pas longtemps.
Okay.
Tu sais, je me dis, bon, pourquoi je suis de mauvaise humeur? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux-tu faire... Tu sais, la question que je me pose constamment, là, puis je ne suis pas un jovialiste, là, je me pose sincèrement, qu'est-ce que je peux faire pour changer quelque chose? Rien. Bien là, regarde, il faut que je calme mon anxiété. Donc, comment je vais la calmer? Bien, c'est en allant faire du sport, parce que si je ne peux pas contrôler quelque chose qui me tape ses nerfs, puis que j'ai aucun contrôle dessus...
Ça ne sert à rien de t'encrasser.
Bien non, si je peux le contrôler, bien tu le contrôles, tu passes à autre chose, tu sais.
Bien, c'est impressionnant. Est-ce que, avant de continuer sur ton entreprise en ce moment, as-tu déjà pensé à enseigner?
J'ai déjà enseigné la fiscalité aux adultes.
OK.
Je suis pas pire, mais j'aime mieux le faire par l'entremise des livres puis des conférences que je donne.
OK.
Puis là, je suis en train d'écrire un livre pour les enfants en ce moment.
Ah ouais?
Ben, ça fait un an et demi là, que la pandémie m'a tellement occupé avec mon entreprise que j'ai... Mais là, ce matin, avant de m'en venir, justement, j'avais une discussion avec l'éditeur.
La pandémie t'a occupé avec Big Brother aussi?
Ben, la même 30 semaines.
80 jours.
C'est drôle parce que quand je suis parti pour Big Brother, je m'étais dit, maman, m'a demandé du papier
pour
composer. Mais t'as pas le temps.
T'as pas le temps, c'est
ça. Mais t'as du temps. Mais t'as pas le temps. Tu peux pas sortir de la game et aller dans ton coin. Tout le monde qui faisait ça, tous s'est éliminé rapidement.
Sont tous
Non, enseigner, c'est pas pour moi. Je m'emmerderais, mais j'aimerais ça. Des fois, j'aimerais ça. Peut-être un jour, être suppléant.
Ouais.
Y aller.
Pas de temps en temps. Sporadiquement. Là.
Sporadiquement pour aller enseigner aux jeunes. T'es l'enseignant de mathématiques ou de géographie. Ils se balancent de toi pour la journée. Mais juste les motiver pour dire, moi, j'étais là et j'ai décidé de faire autre chose. Puis leur donner j'ai toujours voulu être suppléant pour le fun. Mais enseigner ni au cégep ni à l'université, j'ai
pas. Tu disais que si t'es suppléant, le prof, il est mieux d'arriver avec un bon cours après parce qu'ils vont dire, on s'ennuie de faire ça.
J'ai déjà eu des suppléants qui étaient cool, puis on s'en souvient toute notre vie. Suppléant merdique que tu t'en souviens toute ta vie aussi parce que t'étais tellement niaisé. Mais j'aime beaucoup donner des conférences. Puis ça, c'est quelque chose que
j'ai
beaucoup sur visio puis sur pendant la pandémie. Ouais. Mais là, le booking recommence pour le mois de septembre, octobre, et ça, c'est le fun.
Mais c'est de l'enseignement, je veux pas, tu sais, si tu partages ton savoir et tes expériences.
C'est un show. Parce que les gens, tu sais, ils viennent le mercredi soir, ils ont le choix d'aller te voir toi ou d'aller voir toi. Ils viennent voir un entrepreneur. Donc, il faut que tu donnes un show en même temps.
Ouais, c'est ça.
Moi, j'ai un numéro sur la finance. Fait que c'est comme la même affaire. On fait la même affaire. Ben, c'est ça, là. François Lambert.one, comme tu disais, tu l'expliquais tantôt, c'était on est parti du sirop d'érable, ça a pris de l'ampleur. Et là, tu as ouvert quelque chose qui s'appelle la vitrine québécoise.
Ben, tu sais comment ça a débuté? Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et disent, pourrais-tu m'aider? Et il y a un gars qui a de la panure hyper connue à Saint-Georges-de-Beauce, la panure Le Sablonnet. Et tout le monde capote dessus, puis il m'écrit, je dis, je peux pas t'aider, là, je peux pas appeler Métro, IGA, j'ai le contact, mais... Puis là, je pense à ça toute la fin de semaine, je dis, bien, on a déjà beaucoup de volume, nous autres, peut-être que je pourrais te faire de la place, sûrement. Là, j'en parle avec ma blonde, je dis, serait-ce une bonne idée d'emmener des produits d'autres entrepreneurs? On l'essaye, et ça part en fou. Fait que là, on essaye un autre produit, puis à un moment donné, avant la pandémie, c'est parce que je faisais ça de Montréal, et on était à croiser des chemins. Puis là, c'était rendu trop gros, les produits d'érable. Pour moi, ma blonde a géré plus les entrepreneurs. Fait que j'avais commencé à en enlever. Arrive la pandémie, et là, paquet d'entrepreneurs n'ont pas de site web. Savent pas comment vendre leurs affaires. Et là, j'en ai ramassé. On est là, un an plus tard, on est rendu à 600 produits d'entrepreneurs.
T'as fait de la place.
On livre en moyenne, des petites journées, c'est entre 300 et 400 colis qu'on livre par jour. Et bon, c'est sûr qu'il y a des produits d'érable, tous mes produits à moi, François Lambert, mais tous les produits d'entrepreneurs, on aide des entrepreneurs, puis c'est ça qui est le fun en ce moment. Parce que souvent, moi, j'écoute l'œil du dragon encore aujourd'hui.
C'est ça.
Mais d'un œil où quel produit que je pourrais avoir sur ma boutique? Parce que j'ai besoin d'avoir des gens. Des
produits, c'est comme s'il y avait un sixième dragon qui te regardait quand tu passes.
Oui, parce que moi, je n'investis pas, mais je les ramasse, puis je te donne un exemple. Il y a une paella que je capote. Les épices sont parfaites, faciles à faire, de Marisol. Écoute, on en vend, là, elle-même, là, elle nous écrit l'autre jour, elle n'en revient pas. Mais j'en mange, je mange presque pas de carbs dans la vie. Mais le samedi soir, ça fait 5 fois sur 6 que je fais de la paella.
Pour vrai.
Mais c'est un repas qui est festif, assez beau.
C'est bon, c'est bon en plus.
Et c'est bon, fait que... Puis on en vend à tonnes.
Ça n'a pas de bon sens.
Fait que c'est ça qui est le fun, c'est que...
Fait que t'es l'intermédiaire, dans le fond. Mais t'es l'intermédiaire entre les entrepreneurs qui ont pas de site. T'es comme la plateforme, t'es leur plateforme de vente.
Mais si j'aime le produit, je suis un peu leur ambassadeur, leur influenceur. Mais pour moi, puis j'essaye tous les produits. Des fois, les entrepreneurs me disent « Ouais, t'as essayé mon produit, il est pas bon. » Ben, et tu m'as pas rappelé. Non, t'as essayé mon produit, j'ai pas de nouvelles de toi. Ben, c'est ça.
C'est ça, ouais.
J'ai pas de nouvelles, je vais l'essayer ton produit. Je veux pas c'est pas pour avoir un produit gratuit.
Non, exact.
Mais si regarde, en fin de semaine, j'ai goûté à des jerky de champignons.
OK.
Cordyceps, puis des champignons aphrodisiaques. Mais bon, c'est des champignons qui sont bons. On a goûté à ça. Puis le gars, ça faisait longtemps qu'il m'écrivait sur Facebook. On a goûté à ça. Il est samedi soir, il est 5h30. Je capote sur les champignons. J'y écris tout de suite, puis j'y fais peur. Tu sais, j'ai fait comme Eric, si, tes champignons, tu sais. Il me dit quoi? Tout le monde capote. Je dis, ben, moi aussi, tu sais. Là, ma blonde a pris le relais. On lui a écrit tout de suite un samedi soir. Qu'on capote ses produits, on veut les avoir. Et c'est ça que tous les produits qui sont sur mon site, ben, c'est tous des produits que, un, je cuisine à tous les jours avec. C'est des produits que je capote.
Que tu as rentré dans ta vie,
c'est ça. Et dès qu'il n'y a plus de chimie avec l'entrepreneur, le produit est sorti.
Mais tu es un gars d'instinct quand même, puis de feeling.
Oui, bien tu sais, je veux donner des beaux produits aux gens. Je veux aider si je peux aider des entrepreneurs à avoir une belle visibilité. J'ai une belle visibilité sur mes réseaux sociaux. Je fais des directs à tous les soirs. Je fais des vidéos le matin.
Le matin.
Et je parle que de ça pendant 1 heure à 2 heures par jour.
C'est ça, c'est la belle pub.
Si je peux aider certains entrepreneurs, c'est win-win parce que... Les gens peuvent pas venir acheter du popcorn, de la barbe à papa, des meringues à tous les jours. Mais à un moment donné, ils achètent une paille, une fois, ils achètent un épice. Fait qu'ils peuvent venir des fois acheter des produits. On peut faire notre épicerie au complet là-dessus. Par même temps, oups, ils prennent un popcorn.
C'est gagnant pour toi.
C'est gagnant pour moi et c'est gagnant pour le client. Donc pour moi, on est en train de bâtir sans subvention. On est en train de bâtir une entreprise qui est vraiment fantastique, qui est dans le fin fond d'un rang. Mais ça fonctionne parce qu'on parle avec les gens. Et pour moi, honnêtement, c'est ce qui me fait... Si j'avais eu à dessiner l'entreprise de mes rêves quand j'étais jeune, ce serait celle-là.
Pour vrai? Parce que t'as tous les mondes. Tu mets en lumière les gens qui en ont besoin. Toi, tu t'es en train de trouver ton compte là-dedans en plus.
Ben, je suis en train de bâtir avec... Parce que la vitrine, là, on prend d'expansion vers les États-Unis. Mais les États-Unis, personne ne connaît François Lambert.one. Ici, c'est un accident là, que mon entreprise s'appelle ce nom-là. Mm-hmm. Là. C'est tout simplement que ma blonde faisait mon booking de conférence quand elle est venue travailler avec moi au début. Puis on voulait que ce soit plus professionnel qu'avoir un compte Gmail.
Ouais.
Fait qu'on a juste appelé ça François Lambert.
Ben ouais.
Point one. Marilyn Quentin, François Lambert, point one. Et à un moment donné, c'est devenu une entreprise.
C'était un site Internet maintenant.
Puis maintenant, c'est un site Internet comme Amazon. Là, tu peux aller
François Lambert, what is that?
Fait que là, ce qu'on est en train de faire, on est en train de développer une image de marque maintenant. Un peu, Jessica Alba, l'actrice, elle le fait avec Honest Company, mm-hmm. The Honest Company. Et on s'en va vers là. On s'en vient avec une centaine de chandelles. Mm-hmm. On a des savons.
Ouais, on a
toute une gamme de produits de beauté. On a des popcorns de toutes les sortes. Mais les popcorns, encore là, je fais pas des popcorns comme les autres. Ça m'intéresse pas mm-hmm. de faire popcorn au ketchup. J'aime le popcorn au ketchup. J'aime le popcorn au vinaigre. Mais moi, ce qui m'intéresse de faire, c'est de faire des produits avec des vraies épices.
Fait qu'on a
travaillé avec la compagnie Fireburns de Québec. Toutes les fois qu'on vend un popcorn, lui a sa visibilité. J'y achète ses épices. Je revends aussi les sauces sur mon site. Et il s'appelle Fireburn. On a un autre qui s'appelle Pika Pika. Il y en a un autre, c'est avec du café. Mais on le fait avec une brûlerie dans le coin de
Nord-Adelaide. Tu t'agences avec des entrepreneurs locaux.
On travaille qu'avec l'épice. Là, je suis en train d'en faire un vinaigré, mais avec l'épice sumac. Moi, je ne veux pas travailler des saveurs. Je veux travailler vraiment... Et là, on s'en vient avec des popcorns protéinés parce qu'une compagnie qui nous a approchés. J'ai goûté, j'ai fait comme... On essaie de sortir des sentiers battus en faisant des choses différentes. Regarde, je vais vous donner un exemple qui me fait triper. Les cinémas sont fermés.
Ouais.
Puis tu sais, au cinéma, les gens arrivent toujours avec leur gros bucket de popcorn. Fait que là, j'ai fait comme... OK, on va leur offrir une chaudière de popcorn.
Ouais.
Moi, je pense pas que ça va se vendre. Okay? Mais j'ai dit, on va l'essayer. De toute façon, mon argument de vente, c'est que tout le monde a besoin d'une chaudière dans la maison pour mettre la mop, le mouf à chien, pour mettre les outils. Et on manque tout le temps de chaudière dans toutes les maisons. Okay? Tout partout, ce que j'ai été, même moi...
Des chaudières blanches, là?
Oui, chaudières blanches.
Ah ouais, les...
Fait qu'on en fait le prix, ça s'appelle comme au cinéma. Et je mets ça sur le site. J'en parle, je fais un direct. Ben, gars, t'en as ça. Les 2500 chaudières se sont vendues en une semaine. Bon, il y a des gens qui chialent parce que, oui, il y a un impact, c'est du plastique. Mais le but, je veux pas voir ça dans les poubelles. Là.
Non, c'est ça, c'est de la réutiliser.
C'est de la réutiliser,
Ils le réutilisent. Puis ils vont acheter la même chaudière qui coûte 7$ dans les grandes
surfaces. Ben oui.
Là, à 9$, il y a
du popcorn dedans.
C'est livré chez vous en plus. Fait que
incroyable.
C'est devenu un hit. On l'a appelé comme au cinéma. On a fait venir une deuxième batch de chaudières. Et là, on vient d'en faire une troisième. Puis cette semaine, je dis aux gens, j'ai dit, il me semble qu'une pyramide dans votre magasin, ça serait trippant. Ben là, on a eu comme 40 demandes de palettes, de chaudières.
Ben voyons donc, pour rentrer dans les magasins.
Ben rentrer parce que c'est un trip, honnêtement. Ouais. Une chaudière de popcorn sur tes genoux en écoutant un film.
Ouais, c'est
un trip de petit gars qui dit, t'as moins tout, je pense.
C'est ça, enlève tes manettes là.
Et c'est ça, t'as beau d'avoir un gros bol, mais c'est à toi. Et c'est de faire du marketing différent, de parler aux gens. Puis moi, je le dis aux gens, regardez, on est en train de bâtir un empire. Je sais que je suis en train de bâtir de quoi de majeur qui va rayonner à l'international. Puis je dis aux gens, quand ils achètent mes produits, à chaque produit que vous achetez, vous créez de l'emploi.
Ouais.
Et cette entreprise-là va rayonner. On a appelé le popcorn le mix de la Petite Nation. C'est le village d'où je viens et dans la région de la Petite Nation. Et mon but, c'est de voir ce popcorn-là sur une étagère, dans un aéroport.
À Dubaï.
Effectivement, à côté du Chicago Mix. On le voit partout.
Ouais, c'est vrai.
C'est un clin d'œil. Je copie pas, là, parce que c'est pas les mêmes saveurs. Mais c'est juste vous dire... Tiens, si toi, tu étais capable avec ton Chicago Mix, ben moi, je vais être capable avec mon mix de Petite Nation.
C'est
fantastique.
Imagine la photo, admettons, un gars en Belgique qui passe la mop avec un boc comme au cinéma. De François Lambert qui passe la mop chez eux.
Mais tu sais, le but, c'est d'être pas le secret le mieux gardé. J'en parle de mes produits. Je suis passionné de mes produits.
T'es fier, tu sais. Il y a de quoi d'être fier.
Regarde, les gens disent tout le temps, Amazon. Moi, je n'essaie pas de me battre contre Amazon. Mes produits, sont sur Amazon aussi. Et il y a un client, un gars de Toronto, qui a acheté de la barbe à papa. Il l'a aimé, il nous a contacté. Puis on pensait que c'était pas vrai. Okay? Bien, la semaine passée, il y a 3 semaines, il nous a transféré de l'argent dans le compte. Il a acheté 3500 pots de barbe à papa pour être chippé en Corée du Sud.
OK.
Fait que là, nos produits, parce qu'on s'est mis sur Amazon, parce qu'on en parle, bien là, il nous a inclus dans une palette pour envoyer en Corée du Sud. Mais il n'avait jamais goûté à notre popcorn à l'érable. Fait que là, je dis à Marilyn, ma blonde, je lui dis, on va y envoyer les meringues, les popcorns, on va tout y envoyer. Elle nous a écrit hier, elle dit, mais ce popcorn-là est malade, j'en envoie des échantillons en Corée du Sud. Oh, pour ouais. S'ils vont
investir. Non, ça. Tu traînes pas loin. Là.
Mais tu sais, faut pas. Faut que tu sois pushy dans la vie.
Ouais.
Et c'est comme ça que tu fais ta réussite.
Ah, ouais. Faut que tu drives,
c'est pas parce que je suis connu que j'ai une réussite en affaires en ce
c'est
moment.
Ça, exact.
Ça aide, là. Ouais. Faut pas être fou ouais, parce que les gens, quand ils viennent sur mon site, ils savent qui je suis.
Ouais, ouais c'est ça. Ils sont en train de mettre un visage.
Ça donne un push, mais c'est sûr.
Mais enfin, faut que t'offres un bon service. Faut que t'offres.
Parce que t'as un couteau à double tranchant, s'il est pas bon, le popcorn, ils vont dire le popcorn.
Exact. François Lambert, c'est dégueulasse.
Il est pas bon, mais ce qui est pas le cas, tu sais.
Fait que c'est sûr que chaque petit défaut que t'as, ils vont le dire à tout le monde.
C'est ça. Mais chaque qualité aussi.
Chaque qualité. Puis, tu sais, je suis parti d'un gars qui était détesté pour les statuts que j'écrivais.
Ouais.
Et là, je me ramasse, je dirais. Puis même avant Big Brother, la vague avait changé.
Ouais. Ah ouais.
Puis après Big Brother, c'était encore mieux. Je faisais le courrier des haters. J'avais tellement de gens qui m'engueulaient que je faisais le courrier des haters une fois par semaine. Et là, maintenant, j'ai plus besoin d'en faire. Le monde s'ennuie de ça parce que j'avais des bonnes répliques. Je suis pas humoriste, mais j'avais des popées.
Mais
je suis pas chanteur non plus. Puis dans le show du matin que je fais, qui s'appelle Entraîner votre café, je chante à tous les matins.
Pour vrai?
Et à un moment donné, j'ai essayé de chanter la chanson de ton père. Pas capable.
Ça a pas passé.
Ah, puis je l'ai essayé à Big Brother aussi. Même en lisant les paroles, le calibre de voix. Non, mais ils l'ont coupé parce que à cause des droits de...
Ouais.
Ils disent, on a rentré un karaoké. Et j'ai essayé vraiment de chanter. Comment s'appelle la chanson?
Tu ne sauras jamais.
Tu ne sauras jamais.
Ah ouais, pour vrai, OK.
Écoute, vous avez des tonalités.
Ouais, c'est un registre.
Écoute, j'ai essayé, puis là,
on
riait. J'ai pissé dans ses culottes à me voir. Puis là, moi, hey, j'ai le micro dans les mains.
C'est comme ça. On y va, là. C'est moi, pas de bourgeois, mais...
C'est carré, ça.
Tu sais, tu disais que... Puis on va terminer là-dessus, mais moi, j'ai une question qui est... Moi, puis un ami, je le salue, Joe Cormier, qui est venu au podcast.
Ah oui, mais Joe Cormier, c'est millionnaire, ça.
Ah, millionnaire, ouais.
Oui.
Nous, on te suit énormément sur les réseaux sociaux et on s'envoie souvent tes chroniques du matin, tu sais.
Ouais.
Et moi, je veux savoir, quand est-ce dans ta vie que c'est arrivé de te lever à 3h du matin?
Je me levais toujours tôt pour aller nager.
Mais 3h, c'est...
Mais c'est parce que...
C'est le milieu de la nuit.
Moi, je viens de me coucher.
Parce qu'à un moment donné, tu fais une vidéo.
Ouais.
Les gens aiment.
Mm-hmm.
Tu t'adaptes. À un moment donné, tu finis par trouver ta couleur.
Ah, ouais.
Là, tu le mets à 7h du matin. Là, des gens disent, ah, j'aimerais ça d'avoir plus de bonheur. Parce
je m'en
que
vais
je
à job, ouais, c'est ça.
OK, je vais le mettre à 6h30. Là, les gens veulent l'avoir encore plus tôt. Fait que là, à un moment donné, faut que je lise les nouvelles, moi.
Ouais, c'est ça.
Et là, à un moment donné, avant de rentrer à Big Brother, là, je l'ai raccourci à 25 minutes, mais les gens voulaient tellement qu'à un moment donné, j'étais rendu à 45 minutes à tous les matins.
Pour vrai.
Et là, je me levais à 2h30 du matin. Ça n'a pas de sens, là.
Tu te couches à quelle heure, mettons?
Je me couche vers 9h. Donc, je dors 6h par nuit.
Ça marche.
Là, je me lève à 3h30 du matin. Et à 5h, je commence à enregistrer pour qu'il soit disponible à 6h du matin. Je le mets en podcast aussi.
Okay.
Et ça va super bien. Puis, je fais, tu sais, je parle d'entrepreneuriat.
Ah ouais.
Je parle des vraies nouvelles.
Ah ouais.
Je me moque de tous les politiciens. Valérie Plante, Denis Coderre, c'est mes têtes de turc avec Fitzgibbon. Mais jamais, tu sais, juste pour s'amuser.
Ah ouais.
Et je chante comme un pied à tous les matins.
Ah, ça, c'était carré. Mais j'avais pas ça.
Pourquoi je chante? OK, c'est très stratégique. Puis le monde, c'est... Et Facebook et YouTube, j'ai mis dessus. Faut être monétisé. Dernièrement, j'ai de la misère avec Facebook, là. Mais si tu es monétisé, il présente à plus de gens.
Ouais.
Donc, il faut que tu acceptes qu'il y ait des pubs dans tes vidéos.
Mm-hmm.
Pour Facebook, c'est à une minute que la première pub embarque. Okay. Donc, tu as besoin de faire une pause. Et la manière que j'ai fait ma pause, à un moment donné, j'ai vu mes revenus augmenter puis mes diffusions augmenter. Si tes revenus augmentent, c'est parce que Facebook l'a dispatch. C'est que j'ai une console comme vous autres, j'ai pesé dessus, j'ai fait style, c'est devenu noir, j'ai fait une pause, j'ai dit, bon, madame Caouette, pèsez sur le bouton, tu sais. Puis là, j'ai pèsé sur le bouton, j'allume, puis je me mets à chanter à peu près n'importe quoi.
Hey, voyons donc.
Et là, ça a commencé, les codes d'écoute ont augmenté parce que ça crée de l'engagement.
Oh, ouais.
Il y a des gens qui me disent, hey, elle était bonne celle-là, tous les matins, ou tu chantes comme un pied, arrête de chanter. Ouais. Mais peu importe ce qu'ils écrivent,
Ça génère.
Fait que maintenant, quand même que le monde chiale que je chante comme un pied.
J'adore.
Je sais que je chante comme un pied. Je ris à chaque matin pour dire que je l'ai massacré. L'autre jour, j'ai chanté l'année passée In the Ghetto. Je trouve que j'étais pas pire. Un matin, j'ai chanté
In the Ghetto.
J'ai chanté Tom Jones parce que il a 81 ans. Il vient de sortir un nouvel album dernièrement.
Ça a-tu bien été ce matin?
Le monde m'a dit oui.
Ah ouais, t'étais sans note.
Je m'écoute jamais.
François Lambert, il était sans note à matin.
Hey. Jamais sans note.
François, ça a été
un
plaisir de te recevoir. Je pense qu'il va falloir que tu reviennes. On n'a fait même pas à moitié. Pour vrai, c'était un plaisir de te recevoir, François.
Hey, merci, les gars.
C'est vraiment, là, c'est tellement intéressant. Non, mais moi, l'entrepreneuriat, moi, ça me parle énormément.
Ouais.
Puis de voir ça de l'œil d'un gars, d'un sportif qui a de la drive, moi, ça m'impressionne puis ça m'intéresse.
Mais vous êtes des entrepreneurs.
Vous êtes votre propre produit
et vous devez vous marketer.
Mm-hmm. Complètement. Donc,
à tous les jours, vous devez sortir du lot parce que vous avez de la compétition.
Ouais, exact.
Vous devez sortir du lot, vous devez trouver une place, vous devez arracher une place de spectacle à quelqu'un d'autre.
Ah ouais.
C'est comme ça, puis vous devez vous renouveler.
Ouais. L'entertainment money est de moins en moins gros.
Ça, le dollar loisir a baissé. La pandémie, mais...
Oui, mais regardez, puis je fais une autre parenthèse, regardez Damien Robitaille. Complètement réinventé.
Je ne sais pas
s'il fait de l'argent avec ça, mais on le voit partout. Donc, tu vois que... Il y a toujours moyen de trouver un moyen de percer quelque part.
Mais hein,
complètement. François, on peut tes produits sont sur françoislambert.one.
Oui.
Tu sais, on peut regarder tes fait que c'est le matin et à 17h,
des fois tu fais des toujours vers 6h, c'est pas en direct.
OK.
Je fais c'est pré-enregistré.
Mm-hmm.
Et le soir à 17h, 7 jours sur 7. C'est en direct. Et le samedi soir, ma blonde, qui est une chanteuse, elle chante. Donc, c'est elle qui va chanter la veille. Je ne chante pas le soir. Mais le 17h, c'était vraiment en direct. Et là, j'ai un paquet de sujets que je prépare toute la journée. Et les gens, après ça, on interagit ensemble. Puis,
Ou c'est pour les adeptes de bourse aussi. Des fois, tu en fais au milieu de la journée.
Oui, mais j'appelle ça comment? C'est lunch break. J'en faisais tout le temps parce que je veux montrer aux gens qu'il y a moyen de faire une carrière de day trader, faire de l'argent et ne pas obligé d'aller dépenser pour suivre un cours.
Ouais.
Il y a une technique très,
très simple.
Il y a moyen
de se faire 100%.
Et je me suis fait ramasser par tous les day traders quand ils ont vu que 9 mois plus tard, ils m'ont demandé... mais quand est-ce que tu vas montrer tes pertes? Ben, c'est pas, j'en ai pas.
Okay? Ah ouais, c'est ça.
Donc, je suis pas patient. Et mon but, j'investis 50 000 US à chaque transaction.
Ouais.
Et mon but est de faire 500 piastres. Dès que j'ai 500 piastres,
c'est fait.
Tu t'en vas.
Mais il y a des matins que j'ai déjà fait 8 500 piastres.
Ouais, c'est ça.
Des fois, je suis bien positionné. Ah ouais. Je peux faire jusqu'à 15, 20 transactions, une heure et demie. Mais, j'ai perdu une seule fois de l'argent.
Okay.
Une journée, j'ai perdu 400 piastres.
Mais je l'ai écouté une couple de fois, puis. La façon que tu expliques, c'est...
Tu vulgarises très bien.
Non, mais tu vulgarises vraiment bien.
Il faut que je recommence. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. C'est juste que je manque de temps. Mais je vais recommencer d'ici 2-3 semaines.
C'est quand même fou, c'est quand même fou que de dire qu'un gars qui se lève à 3h du matin manque de temps, ça veut dire que t'as une grosse journée.
Tu sais, mon horaire est quand même... Ben, tu sais, j'enregistre, je lis les journaux de 3h45 à 5h. 5h, il faut que j'arrête, là, peu importe.
Faut que tu commences.
Faut que j'allume la caméra.
Okay. Mm-hmm.
Jusqu'à 5h30. Après ça, ben, ça prend à peu près une demi-heure à uploader, mettre en ligne. Puis mettre le sujet. Parce que sur YouTube, tu peux mettre tes chapitres.
Ah, ouais, exact.
Faut que je me réécoute pour trouver les chapitres. Puis après ça, j'aime ça échanger. Fait que là, ce que je fais de 6h30 à 8h30, tous les jours, je m'entraîne en répondant aux gens.
Okay.
Ah.
Donc, mon gym est dans la maison maintenant, fait que je ne vais plus nulle part. Je m'entraîne, je réponds aux gens, puis...
Ça marche, vraiment.
Comme ça, après ça, je m'en vais répondre, je vais faire, je travaille sur mes projets.
Ah oh, ouais, c'est vrai, c'est la business.
Ouais. Mais je regarde toujours la bourse. Vers 9h30, là, c'est pas le temps de l'appeler, là.
Quand ça ouvre, là...
C'est quand ça ouvre, là, c'est le feu d'artifice.
Ah,
là,
ça
là,
pète, c'est
le
fun
là. Ah, ouais.
Mais un gros merci, François, d'avoir été là.
Merci, les gars.
Super le fun.